Eh bien, bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est BenoFX pour la chronique Jeux du mois. Et pour cette dernière de la saison, un format un petit peu particulier. Un petit peu comme l'année dernière où on avait fait un petit hors-série sur Paris Ludique, et bien cette année, on va faire un hors-série sur Paris Ludique. Alors exceptionnellement,
pour changer,
exceptionnellement, je ne suis pas accompagné de Cyrus. Ne faites pas trop la tête, hein, parce que j'ai quand même deux personnes pour le remplacer. Il fallait bien ça. Donc avec moi, aujourd'hui, pour vous parler de Paris Ludique, la touche féminine de l'équipe Proxy Jeux, Paul Gara.
Oui, bonsoir BenoFX.
Salut Paul Gara.
Où t'as l'air réveillé.
Et vous l'entendez parler dans sa barbe depuis le début, là. Notre dinosaure de chez Proxy Jeux.
Hein?
Oh.
Ah bah oui, ça fait très longtemps qu'il est chez Proxy Jeux.
Bah, 103 ans, hein, ça se mérite hein, quand même. Pour un vieil elfe, quand même, je pense que je tiens la route.
C'est ta combientième saison? Voilà, tu vois.
Ça ne se pose pas comme question, s'il vous plaît, monsieur.
Tu vois, il a arrêté de compter là.
Je suis encore jeune dans mon esprit, voilà.
Vous l'avez tous reconnu, c'est Fendoel, bien sûr. Salut Fendoel.
Salut BenoFX.
Bon, on est en configuration très team parisienne. Hein. Mais
très.
C'est un peu normal puisque c'est un festival parisien. Cyrus n'a pas pu participer cette année, donc c'est les Parisiens qui s'y collent.
Bah, il y avait des Deschutes qui étaient là quand même.
Oui, il fallait quand même un représentant du Grand Est.
Il y avait quand même un représentant de l'Est. Il y a Acariat qui est passé sur le festival aussi, mais il était très très occupé et il ne peut pas faire le débrief avec nous. Et puis, on aurait été 4, ça aurait duré 3 heures. Déjà là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc c'était
2h50.
Un petit peu compliqué. 2h50.
Non, on va essayer d'être concis.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a des commentaires du jeu du mois précédent, BenoFX?
Oui, il y a quelques commentaires. Donc moi, le mois précédent avec Cyrus, on vous avait présenté When I Dream et Château Aventure. Donc il y a des gens qui ont toujours des pseudos imprononçables. Il y a Snexetera peut-être. Snexetera.
Oui, ça doit être ça. Snexetera.
Snexetera qui nous a fait deux commentaires. Déjà le premier sur When I Dream où il dit que l'aspect communication dans When I Dream a vraiment bien fonctionné pour lui. Parce qu'on disait que justement c'était un jeu qui était un peu passé sous le buzz, qu'on l'avait pas vu, et lui il dit que ça a été bien poussé par les boutiques locales et sur internet, voilà, et qu'il avait aussi de bonnes notes et mis en avant sur des sites comme Ludovox. Et après il nous a fait un deuxième commentaire sur Château Aventure cette fois, où il joue en fait la première fois avec des joueurs qui aiment bien réfléchir, etc. Et puis après il le joue en famille en faisant le maître du jeu. Ça, il parle d'Unlock en fait. Et il a hâte en tout cas de tester Château Aventure.
Mais ça c'est une super idée effectivement de faire un lock une fois vraiment et puis une deuxième fois.
Et puis après
fois,
de le faire jouer à d'autres. Moi je le fais aussi un petit peu au bureau. Ouais.
Moi je le fais sur Time Stories aussi. Souvent je fais les parties en club et après je rejoue à la maison avec ma famille en connaissant le scénario, donc j'essaie de ne pas les influencer, mais c'est plus pour des gens qui seraient un peu dépassés par la mécanique même. C'est pas mal en fait, ça leur allège le côté gestion, tu vois, des dés, des combats, enfin ou des tests de compétences, enfin ce genre de choses.
Tu gères tous les trucs chiants quoi.
Oui, voilà, tu gères pour eux les trucs chiants et tu vois aussi que même avec d'autres joueurs, tu fais pas la même partie malgré tout.
C'est sûr.
Donc t'as quand même du plaisir, même si tu connais le scénario.
Ouais. Et donc il y a Twin, lui on sait prononcer son pseudo maintenant, à force d'avoir dit Twin et de s'être fait enculer. Donc Twin nous dit que c'était vraiment une belle idée de reprendre les Parcelli Games et de les rééditer sous la forme d'un nouveau bouquin, donc de Château Aventure, avec les nouveaux scénarios, les belles illustrations, etc. Voilà, il trouve que c'est super bien aussi d'avoir ouvert la porte à d'autres contributeurs, d'autres auteurs pour les scénarios, avec plein de styles différents, plein de références. Donc voilà, il est assez content du jeu et il a trouvé qu'on l'a bien présenté.
Ah bah c'est gentil.
Bah ouais, ouais, bah il est gentil Twin, hein.
Oui.
Il est cool.
Toujours constructif en plus.
C'est vrai, c'est vrai. C'est tout ce qu'il y avait comme commentaire sur l'épisode précédent, donc je vous propose qu'on passe au retour de Pelle. On aura deux parties du coup, une première partie plus un peu comme on peut le faire sur Cannes, une première partie qui va parler plutôt du salon, et puis après on va parler des quelques jeux qu'on a pu tester. Même si je pense que on n'a pas tellement joué tous les trois, mais suffisamment pour faire quelques retours.
Oh, on a fait quelques parties quand même.
Ouais, c'est vrai. Bah moi j'étais que le samedi, ouais, et j'ai pas beaucoup joué.
Bah moi pas autant que j'aurais voulu, mais
c'est
pense
normal.
Que c'est assez, c'est un peu le cas pour tout le monde.
Ouais. Alors le salon, ou en tout cas le festival Paris Ludique, alors j'ai commencé par ça, c'est un peu particulier parce que sur le site c'est bien écrit, c'est un festival, ce n'est pas un salon, mais c'est un festival un peu particulier parce que en fait, il y a quand même une partie vraiment réservée aux éditeurs qui ont leur propre stand, comme sur un salon un petit peu. Et après, il y a plein d'autres parties qui sont animées par des bénévoles. Donc c'est un peu... le festival Paris Ludique, c'est un peu un hybride entre un festival et un salon. Donc ouais, c'est un petit peu un hybride. Alors la particularité aussi, c'est que ça se passe en plein air, donc ça c'est plutôt agréable. Mmh. Il y a une entrée payante, c'est pas très cher, c'est 5€ pour tout le week-end. Qu'on vienne le samedi et le dimanche ou juste l'un des deux, c'est le même prix.
Ouais, c'est plus histoire, à mon avis, de pas avoir d'opportun qui rentre sans payer, quoi, à mon avis.
C'est ça, et puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans aussi. Et puis tout ce qui est sur le site est gratuit, à part les boutiques, bien évidemment, parce qu'il y a quelques boutiques, mais toutes les activités, en fait, que ce soit les activités annexes au jeu, comme le troll ball, le sabre laser et tout ça, tout est gratuit sur place. Alors cette année, c'était 180 stands quand même, donc on est en augmentation par rapport à l'année dernière, où il y avait, je crois, 162 exposants l'année dernière, donc ça augmente un peu. Pareil, pratiquement 2000 tables mises à disposition sur le festival, pour 1330 l'année dernière.
Mais ça, c'est important de le dire, c'est aussi un festival sur lequel on joue. Au final, on se rend compte que la plupart des festivals en France, on a tendance à beaucoup jouer. Il y a finalement que Essen, qui est un festival où on va juste acheter.
On achète beaucoup, ouais.
Ouais,
c'est vrai.
Oui.
Ouais, ouais. C'est vrai que en fait il y a un petit espace boutique, mais c'est assez anecdotique sur Paris Ludique, quoi. Il y a deux, trois stands, finalement.
Et tu peux acheter sur quelques stands
les éditeurs vendent un peu de la main à la main, c'est vrai.
Mais ce qui est pas désagréable d'ailleurs, parce que t'as pas l'impression qu'en fait c'est une succession de boutiques améliorées comme tu peux l'avoir dans certains salons ou festivals.
Ouais, à Cannes ça commence à se développer un peu plus l'aspect vente. C'est vrai que à Paris Ludique c'est vraiment assez anecdotique. Donc la fréquentation est aussi en hausse, hein. On était à l'année dernière à peu près 16 000 visiteurs et là on est monté à 20 000 cette année, donc une belle progression quand même.
Ça fait 25% de plus.
C'est ça, c'est assez énorme.
C'est impressionnant parce que j'avais pas plus l'impression qu'il y avait plus de monde que par rapport aux années précédentes. Enfin, je sais pas vous, mais...
Non, c'est vrai. Alors moi, j'étais que le samedi, mais alors ils ont réaménagé un peu les espaces, ils ont réorganisé un peu le site, et peut-être aussi que ça a joué sur cette impression de foule ou non.
Ouais,
quoi.
C'est un grand espace. Hein. Ce qu'il faut comprendre, si vous y êtes jamais allé, c'est qu'il y a vraiment la place et on est allé se mettre tout au fond sous les arbres pour aller manger, nous. On était bien tranquille et voilà, c'est possible. Il y a suffisamment de chaises pour ça.
Et les allées sont assez larges, hein. Donc tu circules quand même, même avec du monde, tu circules assez bien. Tu te sens pas, tu te sens jamais vraiment
étouffé.
Même
si t'as une poussette, c'est même faisable éventuellement.
Ouais.
Tout à fait. Et c'est pour ceux qui connaissent, c'est à la pelouse de Reuilly, donc c'est là où est organisée la foire du trône, donc l'énorme foire de Paris. Alors c'est pas le festival s'étend pas sur tout l'espace de la pelouse de Rouy, hein, mais sur une je dirais un bon tiers, quoi, donc ça fait quand même un bel espace. Donc belle fréquentation. Sur ces 20 000 visiteurs, il y a pratiquement 1 000 personnes qui ont participé au fil rouge. Ils font ça, je crois que c'est la deuxième ou troisième année que le festival fait ça, donc c'est une espèce d'enquête dans le festival, un metagames dans le festival, où on peut gagner des jeux, en fait. Donc voilà, pratiquement 1 000 personnes qui ont participé à cette petite enquête. Et puis, le festival, c'est aussi 140 bénévoles qui s'occupent d'expliquer des jeux sur, on va expliquer un peu les espaces, mais qui s'occupent d'expliquer certains jeux, qui s'occupent aussi du concours de proto sur l'espace jeu de demain. Donc 140 bénévoles, c'est un petit peu plus que l'année dernière, je crois. Il y avait 120 bénévoles, donc ça a un petit peu augmenté aussi, ce qui montre aussi que le festival grossit. Et bon, c'est pas plus mal. Donc sur ce festival, je vous parlais des différents espaces. C'est une des particularités du festival, c'est qu'il y a des espaces assez distincts. Donc le plus gros, c'est le village ludique, en fait. C'est là où il y a tous les stands des éditeurs de jeux de société. Voilà, il y a aussi, accolé à cet espace village ludique des éditeurs, il y a un petit espace jeu de rôle dédié, un petit espace jeu de figurines.
Et je trouve le jeu que le jeu de figurines prend beaucoup de place, de plus en plus.
Oui.
Je sais pas si vous avez cette impression.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plus que l'année dernière en tout cas.
Mais c'est clair que en fait les Kickstarter, le fait qu'ils présentent de plus en plus les Kickstarter appareils ludiques fait que bah il y a de plus en plus de tables et de plus en plus de jeux qui sont là, de figurines.
Ouais, puis je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits parce qu'ils rapportent beaucoup de. C'est l'avantage aussi du jeu de figurines, hein, pour de. C'est très visuel. Quand tu vois ils rapportent des décors de jeux qui sont très chouettes et qui attirent l'attention aussi, hein, qui. N'importe qui est assez admiratif. Hein. Tu vois les décors avec des arbres, de la mousse. Enfin, c'est vraiment super chouette. Hein. Donc, même si tu n'y connais rien, t'as envie d'aller regarder, jeter un coup d'œil, ça plaît toujours.
Tout à fait. Ouais. L'espace a un petit peu grossi quand on compare les plans de l'année dernière et cette année, mais pas non plus. Il a pas doublé de superficie, quoi.
Il est peut-être plus mis en valeur, je pense.
Ouais, il était bien visible cette année. Donc accolé toujours au stand en fait éditeur, il y a un stand, il y a un espace le Royaume d'Alice, donc c'est les éditeurs qui sont spécialisés jeux enfants, Abba et compagnie. Et c'est toujours l'espace où il y a des affiches très 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 drôles, je sais pas si vous les avez vues cette année, pour sensibiliser en fait les parents à garder un œil sur leurs enfants, que les stands ne sont pas des garderies en fait. Donc il y en avait une, c'était « Tout enfant laissé seul se verra offrir un Red Bull et un sifflet ». Il y en avait deux, trois comme ça. Il y avait un truc avec la lettre au Père Noël aussi, je sais plus ce qu'il y avait écrit dessus. Mais bon, ils ont toujours des affiches très très drôles pour inciter les parents à surveiller leurs enfants. Donc, à côté de ces espaces où c'est des stands plutôt tenus par des professionnels, par des éditeurs, il y a tous les stands tenus par des bénévoles. Donc, il y a déjà un grand espace association où il y a tout un tas de choses. Il y a des associations de jeux classiques qui vont présenter, en fait, qui vont faire jouer à des jeux de société. C'est des tables un peu de jeux en plus. Il y a aussi tout ce qui est jeux, tout ce qui est activité un peu plus large. Donc, il y a un gros espace de Molki. Il y avait du sabre laser, il y avait du troll ball, il y avait tout un tas de choses. Il y a un hippoglouton géant qui a été organisé aussi.
Ça, c'est marrant.
Sur un espace.
Ouais.
Donc, les gens étaient sur des skateboards avec des gros paniers pour attraper des boules en plastique.
Et des protège-coudes, des protège-mains, des protège-casques, enfin tout ce que tu veux.
Ouais, c'était assez drôle. Donc, l'espace association qui est assez varié, assez cool. Il y a l'espace jeu à volonté. Donc, ça, c'est aussi c'est là où on se rapproche vraiment d'un festival. L'espace jeu à volonté, en gros, c'est une grosse ludothèque avec plein de tables et des bénévoles pour vous expliquer les jeux. Donc, c'est vraiment l'aspect très je joue à ce que je veux. J'ai vraiment une grosse ludothèque et je suis pas sur le stand d'un éditeur, quoi. Je choisis, et ça se remplit très vite aussi parce qu'il y a des gens qui viennent. Ou quand il n'y a plus de table, souvent ça se remplit chez les éditeurs, ça se remplit très vite sur l'espace jeu à volonté. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour là-bas.
Pas du tout.
Non,
pas
du tout. Non plus.
Moi j'ai fait jeu de demain et jeu des éditeurs et les éditeurs principalement, mais pas plus.
Oui, ouais. Voilà, moi plutôt les éditeurs et puis les jeux de figurines, passage obligé.
Oui, bah comme le dit Fendwell, il y a un autre espace qui est l'espace jeu de demain. Donc là en fait c'est l'espace du concours de proto. On va y revenir, mais en gros, il y a 30 prototypes qui ont été sélectionnés cette année par les équipes de Paris Ludique. 20 dans une catégorie famille et 10 dans la catégorie plutôt expert. Donc c'est 30 sélectionnés parmi 168 prototypes envoyés, en tout cas sur règle, cette année. Donc pour en avoir discuté un peu avec Stéphane Galani, qui est le responsable de l'espace, ça a pratiquement presque doublé par rapport aux autres années. Enfin, le nombre de prototypes proposés explose. Donc eux, ça devient assez sport de sélectionner sur règles parce qu'ils doivent ils sont une équipe de 3 ou 4, je crois, mais ils doivent se fader quand même 168 règles par 236 auteurs parce qu'il y a pas mal de duos d'auteurs en fait. Et alors c'est bizarre, cette année j'ai pas vu les résultats de ce concours de proto. Généralement il y a un classement des 3 premiers dans chacune des catégories. Qui habituellement la remise des prix a lieu sur le festival directement. Alors comme j'étais pas là le dimanche et que j'ai pas du tout trouvé l'information sur Facebook, je sais pas si la remise de prix a eu lieu.
Mais il y a peut-être pas eu de prix finalement.
Ou s'il y a pas eu de prix, ou alors si c'est le temps de faire le comptage des voix, etc. C'est reporté ultérieurement. Je sais pas. Si vous êtes au courant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la page.
Il y a juste un truc qui est marrant, c'est qu'il y avait un ancien de Proxy Jeux, Siol, qui avait sa femme et sa fille, hein, qui avait un jeu en catégorie famille pour les jeux de demain. Oui. Et je fais un peu de pub, ça s'appelle Trouve le code et ouvre le coffre. Et bah, si vous avez l'occasion de l'essayer, je sais pas où, mais si vous avez l'occasion de l'essayer, bah, n'hésitez pas. C'est un petit jeu de cartes très rigolo.
Oui, est-ce que Stéphane nous disait aussi sur le prix, en fait, sur les catégories famille et expert, la différenciation, en fait, c'est que eux le faisaient essentiellement sur la durée du jeu, en fait. En gros, ce qui est en dessous de 3 quarts d'heure, même plutôt dans la demi-heure de jeu, ça va aller en famille. Et ce qui dépasse les 3 quarts d'heure, 1 heure, ça se met en expert. Et ils utilisent ça comme critère. Donc j'ai trouvé ça assez marrant parce que je me suis dit, bah, y a des jeux courts qui peuvent être experts et puis des jeux longs qui peuvent être plus familiaux. Et ils me disaient, non, à partir du moment où tu dépasses 1 heure, tu perds complètement les familles. À partir du moment où tu dépasses 3 quarts d'heure, 1 heure de jeu, de toute façon, tu perds les familles. Donc eux, ils le classent en expert. Même si le jeu n'a pas des règles très compliquées.
Ce qui semble assez logique.
Ouais, c'est assez logique, mais c'est...
Idée de classement comme une autre, ensuite.
Tout à fait, voilà. C'est vraiment... Donc, les deux catégories, en fait, Family Expert, il y a vraiment que deux catégories. Il n'y en a pas une troisième, comme peut y avoir Appartenez, où il y a, je crois, Réflexion, et puis... Enfin, il y a deux catégories, en fait, c'est un peu plus graduel. Là, c'est deux catégories, une famille et une expert, et ça se fait sur la durée. Ça, c'était l'espace jeu de demain. Après, il y a d'autres espaces plus annexes, en fait. Il y a un espace tournoi, parce qu'il y a pas mal de tournois aussi sur Paris Ludique. Ça attire toujours pas mal de monde. Donc, des tournois de différents jeux. Donc, il y a un espace dédié à ça. Et après, il y a l'espace, bien sûr, snack et buvette. Hein. Je crois que, d'ailleurs, Paul Gara voulait nous faire un petit point top chef sur la buvette.
Ouais, donc sur la buvette où c'est je comprends que c'est vraiment que fait en par eux, hein. Ils ont pas des prestataires à qui, enfin, qui payent sûrement une commission, etc. Comme ça peut se passer. Donc, enfin, moi j'ai trouvé que c'était pour la taille du festival, pour son image. C'est franchement pas du tout au niveau, donc je vais faire ma relou tout de suite. C'est vraiment super. D'abord, s'il y a pas beaucoup de points de vente, enfin donc on s'est vite full. Donc déjà que tu fais la queue pour jouer, si en plus tu fais la queue pour manger autant de temps que pour jouer, ça devient un peu stressant. Et donc après, ce qui est proposé, c'est super limité. C'est vraiment pas bon. Et je suis stupéfaite qu'un festival comme ça. Alors je pense que c'est vrai que quand tu le fais toi-même et que tu ne prends pas un prestataire comme des food trucks, etc., bah tu fais beaucoup plus de marge sur les repas. Donc ça, je peux tout à fait économiquement le comprendre. Sauf que pour l'image, enfin un festival qui est quand même assez important, c'est un peu, c'est vraiment dommage. Enfin moi, c'était le gros point. C'est vraiment le gros point négatif. On va penser, je suis pourtant, je viens pas pour manger, mais franchement, c'est vraiment.
Mais si, on a compris, tu viens pour manger, quoi. Non, mais en toute honnêteté, faut pas y aller pour manger. Prends tes sandwichs dans ton sac, hein, y a pas d'autre choix.
Voilà, non, mais tu vois, moi, je suis la prochaine fois, je fais mes sandwichs, hein, parce que ils sont moins dégueulasses. C'est impossible de faire. Enfin, le truc, bon, c'est sandwich merguez. La merguez, c'était juste imbouffable. C'était horrible. Et même au niveau des boissons, la bière qui est proposée, j'ai un peu halluciné. Enfin, c'est de la bière vraiment bas de gamme. Je citerai pas de marque, mais c'était vraiment limite. Et je comprends pas qu'ils aient pas un partenariat avec un brasseur parisien. Enfin, ça se fait beaucoup dans beaucoup de festivals. T'essaies de trouver des acteurs locaux. T'as des brasseries, qui font de la bière parisienne. Tu pourrais avoir un accord avec eux pour distribuer leur bière. Enfin, peut-être que tu feras un peu moins de marge, mais je pense que c'est aussi
Ça peut être une voie d'amélioration, ouais.
Voilà, moi j'ai trouvé que la buvette, il y a pas assez de files de vente déjà pour le nombre. La qualité est vraiment pas bonne. C'est pas les gens qui sont en cause, hein. C'est la manière dont c'est fabriqué. Quand tu fais à la chaîne comme ça, t'es obligé d'acheter des trucs. Je pense des produits pas de très bonne qualité. Je pense qu'il vaut mieux peut-être faire renoncer à de l'argent sur, de la marge là-dessus, déléguer à des gens qui ont l'habitude et qui pourront faire un truc quand même de qualité, parce que voilà, ça cadre pas du tout avec l'image de ce festival. Et bon, moi je trouve ça un gros point négatif.
Ouais, alors moi pour contrebalancer un peu sur certains points, je suis d'accord effectivement sur l'attente et sur la queue, c'est vrai que c'est un peu compliqué, qui c'est toujours mais ça d'année en année la queue est très très longue pour acheter à manger, d'autant plus pour les professionnels, puisque en fait il y a une queue spéciale pour les professionnels dédiée, en fait.
Oui, ils sont censés être prioritaires.
C'est une caisse prioritaire, mais comme il y a une seule caisse qui est prioritaire, en fait il y a énormément de monde.
Si t'es le 20e dans la caisse prioritaire, t'es quand même
En fait, c'est même plus long, en fait, que pour le public. Sur la qualité, bah, pff, Moi, je m'attendais à manger une merguez frite et j'ai eu une merguez frite et elle était ni plus mauvaise ni meilleure que de merguez que tu peux manger sur ce genre de truc. Alors peut-être que toi t'as pas eu de chance sur la cuisson ou je sais pas quoi de ta merguez, mais moi ça m'a pas paru moins bon qu'ailleurs quoi pour une merguez. Sandwich merguez. C'est pas de la grande gastronomie hein, c'est du sandwich merguez. Bon,
ouais,
pas...
mais franchement moi je pense que tu peux faire vraiment mieux, mais voilà, ouais, faut faire appel. C'est aussi la question, c'est de faire appel à des gens qui savent faire, enfin vraiment. Alors
sûrement après il faudra qu'on se renseigne, on vous mettra la réponse. Je suis pas persuadé que ce soit les bénévoles du festival qui gèrent la bouffe. Pour moi, c'est alors c'est pas forcément des professionnels, hein, c'est peut-être une association ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit des gens, les bénévoles du festival, parce que pour avoir pour avoir participé à Jeux de Demain et puis pour avoir un badge pro l'année dernière avec Pixie, et puis pour avoir aussi des copains qui avaient des badges cette année, en fait, il y a un espace buvette réservé aux bénévoles et aux professionnels, donc qui fait que de la boisson hein, pour le coup, et un peu quelques sucreries, mais pas. Et où là, en fait, c'est les bénévoles qui s'en occupent. C'est vraiment les bénévoles du festival qui s'occupent de ça. Et là, en fait, ils ont de la bière pression qui est pas dégueu du tout. Ils choisissent des pressions, ils ont leur bière, etc. Et donc c'est un stand qui est réservé, mais c'est pas le même stand boisson et bouffe que le stand principal. Et je suis pas, enfin à confirmer, hein, c'est vrai que
ce serait intéressant de savoir. Hein.
Je suis pas persuadé en fait que ce soit que la buvette, enfin la snacking principal là, soit, la restauration soit gérée par les bénévoles.
Bah alors dans ce cas-là, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être revu hein, parce que je l'ai.
C'est
bien sûr, ça n'a en termes de fréquentation, de taille, de festival, de réputation, ça n'a strictement rien à voir. Mais le festival que nous on organise, il y a quand même du monde. Hein, c'est pas non plus, il n'y a pas dix pèlerins qui viennent. Ils ont fait le choix de prendre des food trucks locaux avec vraiment des produits de qualité. Et pour le coup, c'était super bon. Avec, toi, il y avait un food truck genre tartine bio, un food truck hamburger maison, un food truck grillade, mais c'était que des produits locaux de vraiment bonne qualité, un truc antillais, enfin il y avait vraiment du choix, c'était varié. Alors à l'échelle de Paris, tu peux avoir beaucoup plus de food trucks, enfin tu peux très bien trouver beaucoup 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 de stands, enfin voilà. Et ils avaient pareil pour la bière, c'était un brasseur local qui avait été contacté. Et je pense que c'est en plus on est dans une époque où quand même les gens demandent de la qualité dans la nourriture, hein, il y a quand même un retour là-dessus, enfin je trouve qu'il y a quand même des velléités de manger un petit peu mieux, et c'est vraiment dommage quoi, surtout dans une ville comme Paris, tu vois, c'est quand même tu te dis bon,
je pense
qu'il y a c'est un effort qui peut être fait franchement hein, ils peuvent trouver mieux.
On
et sur la bière j'en parle même
mieux.
Pas enfin la bière c'est pas très compliqué à faire, je pense, de trouver un brasseur local avec qui faire affaire quoi.
Ouais, après je pense qu'ils ont une grosse cible familiale, et du coup tu vois ils ont pas
des enfants qui boivent pas de bière,
c'est ça. Et ils pensent pas trop aux parents, mais non, je suis d'accord là-dessus sur.
Moi, je peux te dire, mon fils, il a rien mangé. Hein. Le sandwich qu'il a eu, il l'a pas mangé. Hein. Et c'était pas vous, il fait rien.
Bon, moi, j'ai mangé là-bas, je te dis, j'ai mangé ma merguez.
Mon mari, il a mangé, et puis nous, on a pas mangé, parce que nous, on est des relous, je pense.
Non, mais après, tu vois, t'avais un espace où tu pouvais rajouter des oignons frits, il y avait plein de sortes de sauces. Enfin, c'était. Voilà, effectivement, c'est de la merguez frite, quoi. Voilà, c'est.
Ça faisait un peu, nourriture de manif.
Ouais, c'est ça.
C'était un peu le stand CGT, en fait.
Ce qu'on comprend, c'est que Paul Garat s'attendait à un 3 étoiles, et voilà, quoi. C'est pas
Paul
un
Garat
Michelin,
est très,
voilà.
Très chiant pour la nourriture, ouais. Je suis vraiment, oui.
Mais après, c'est un festival duquel tu peux sortir facilement et rentrer facilement. Alors certes, il n'y a pas énormément de choses aux alentours, mais en marchant 10-15 minutes, t'es à la Porte Dorée et tu peux trouver...
Ça, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut, quand tu sais que t'as du temps, puis au niveau du thème...
Ça peut aller même plus vite, en fait.
Ça peut même aller plus vite. Je pense que tu peux sortir et trouver un peu mieux... Et pas beaucoup plus cher. Hein.
Mais ouais, globalement, on est d'accord. L'espace restauration pourrait vraiment être amélioré. Je pense qu'on est d'accord. Alors, sur le salon aussi, à noter, il y a un petit prix ludique qui s'appelle la patate d'or. Donc en fait, c'est un espèce de prix d'estime qui est en fait remis chaque année par le vainqueur, enfin en tout cas le lauréat de l'année précédente.
Transmis,
tout à fait. Donc c'est un petit trophée en forme de patate de Martin Wittberg, toute dorée. Et le lauréat de l'année dernière, en fait, c'était Mathieu Despnous. Et Mathieu Despnous, cette année, a décidé de remettre la patate d'or à Johan Laurent, qui est le créateur de BlackRock. Voilà, quelqu'un qui est assez dans l'ombre, en fait.
Tu choisis ton successeur, en fait.
Oui, tout à fait. Tu choisis ton successeur.
C'est pas mal comme idée.
Ouais, c'est plutôt cool. Et puis, généralement, il y a Croc qui l'a eu. Ça navigue pas mal. Et je trouve sympathique le choix de Mathieu Despnous, parce que Johan Laurent, le créateur de BlackRock, c'est pas quelqu'un qu'on connaît vraiment. C'est quelqu'un d'assez discret. Et puis, quand on voit l'évolution qu'a eu BlackRock ces dernières années, c'est quand même quelqu'un, je pense, qui fait du bon boulot. Donc voilà, c'est mettre en avant quelqu'un d'assez discret, c'est un bon choix, je trouve, de Mathieu Despnous.
Ça nous étonne pas de lui.
Tout à fait. Pour clore un petit peu la partie sur le festival en lui-même, je crois que Paul Gara avait un petit tuto Christina Cordula.
Ouais, c'était un peu dans le, si vous avez le challenge, trouver la meilleure tenue pour aller à PEL, parce que bon, ça c'est un peu pour rigoler aussi, hein, parce qu'on a eu un petit débat, est-ce qu'on peut ou pas mettre des sandales, est-ce que c'est recommandé, enfin gros sandales contre basket, parce que j'avais dit qu'il fallait pas y aller en sandales ou chaussures ouvertes parce que c'est très poussiéreux.
Tout à fait.
Voilà, ça il faut quand même le dire. Donc quand tu poses ton sac à dos par terre et que tu le relèves après, t'as des surprises, voilà. Et donc voilà. Et puis comme il y a du monde, tu peux te faire écraser les pieds et forcément les chaussures ouvertes, c'est plus douloureux. Donc moi j'étais plutôt de l'école basket et ceci dit, j'ai fait, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je suis venue en sandales bien sûr pour être fidèle à mes prescriptions. Et parce qu'il faisait super beau et que c'est vrai que là c'était compliqué. Ceci dit, quand tu venais en sandales, tes sandales avaient vraiment changé de couleur le soir. Ça c'est vraiment très poussiéreux, faut le savoir. Donc je pense que vraiment les tongs pour le coup là ça faut oublier parce que d'abord
même avec des chaussures elles changeaient de couleur. Moi j'avais des chaussures noires et voilà. Quoi.
Elles étaient grises, marron après. Et ça on s'en rend pas forcément compte parce que cette année, l'année dernière je crois qu'il y avait beaucoup de vent. Donc tu le sentais vraiment. Là ça allait, mais t'as intérêt aussi à avoir des lunettes de soleil parce que quand pour peu qu'il y ait un peu de vent, tu te prends de la poussière dans le visage et t'es content d'avoir tes lunettes pour protéger. Enfin, c'est vraiment des petites astuces.
Et une casquette ou un chapeau.
Ouais, et crème solaire aussi parce qu'en fait, tu peux ne pas t'en rendre compte, mais ça peut vite quand t'es statique comme ça et pour peu qu'il y ait un peu de soleil, tu prends vite. Donc voilà, il faut un couvre-chef, il faut bien penser à bien choisir ses chaussures et ne pas hésiter à avoir des lunettes de soleil et puis se laver les mains régulièrement parce que t'as vite les mains crado quoi, enfin avec entre la poussière, tout ce que tu peux avoir ta petite bouteille de gel. Donc c'était un peu voilà quoi mettre dans votre sac pour aller à peine. Mais bon voilà, les sandales, là je l'ai tenté, moi ça allait, hein. C'est mon fils, c'est sandales allemandes, vous voyez, les birkis ont pris cher.
Avec les chaussettes déjà intégrées dedans, c'est ça?
Alors ça se discute, bon, parce que tu peux mettre des chaussettes en te disant, ce sera, j'aurai les pieds plus protégés de la poussière et tout. Mais non, quand même, le pauvre.
Bon, c'est pas t'auras les pieds protégés de la poussière, c'est les Birkenstock à l'allemande, ça se met avec des chaussettes.
Voilà, ça, t'as l'école allemande et puis t'as l'école un peu plus latine. Où tu te permets d'être pieds nus, mais il y a des gens qui n'aiment pas montrer leurs orteils, il faut le savoir, qui trouvent ça vraiment. Donc c'est aussi pour ça que mon ami met des chaussettes. Donc voilà. Donc cette année j'étais en sandales, donc une grande première.
Mais alors il faut le dire, tous les stands, en tout cas tous les stands éditeurs, la plupart sont quand même sous des tonnels.
Sont couverts, ouais.
Ouais.
Il y a des tonnels. Oui, t'as des Barnum, ça c'est quand même. En fait, c'est quand tu te retrouves à des côtés d'allée, enfin entre l'allée et le stand, où si t'es orienté au soleil, effectivement, tu peux te retrouver avec la tête au soleil sans forcément t'en rendre compte. Et là, ouais. c'est là que c'est traître.
Et c'est ce qu'on peut dire aussi sur l'espace restauration qui pourrait être amélioré, c'est qu'il y a assez peu de tonnels. Donc, heureusement, il y avait un petit coin d'ombre avec des arbres où on a pu un peu tirer des tables pour manger à l'ombre. Mais c'est vrai que le coin restauration est pas très ombragé non plus et à midi sous le cagnard, avec des merguez moyennement bonnes, c'est pas le meilleur moment de la journée, quoi.
Je sais qu'on est un peu des petits bourgeois, quand même.
C'est bon, on a fini le point mode. Moi, je m'emmerde, je vous le dis tout de suite.
Ah, attends, c'est important.
Bah,
c'est
on
des
verra.
Bons conseils.
En gros,
c'est des conseils de vieux briscards.
Tu veux que je te résume le conseil en 3 secondes? L'année prochaine, regardez la météo avant d'aller à PEL. Voilà.
J'ai cru que t'allais dire regarde PEL chez toi.
Mais non!
Bon, Fanduel, tu voulais rajouter quelque chose sur le salon, sur le festival?
Pas du tout. C'est bon.
Pas du tout. Ok. T'as pas de tenue conseillée.
Non.
Tu sors pas la chemise à fleurs systématiquement pour Paris Ludique.
Bah, tu me connais, moi. De niveau originalité, faut en passer. Les personnes qui avaient les plus belles chemises du salon restent, enfin de PEL restent toujours les gens du droit de perdre qui
c'est vrai.
Sont ouais,
loin ça de Yves et Fabien Bleuze. J'ai vu que Fabien, je crois. J'ai pas vu Yves.
Ah, si, ils étaient tous les deux sur leur stand, endiablés comme d'habitude.
Comme d'habitude, avec une belle chemise. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur la partie festival. De toute façon, si vous avez des remarques ou d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et donc, on va passer sur la partie jeu. Donc, on passe à la partie des jeux. Qu'on a pu essayer sur ce festival. Alors, comme on l'a dit en intro, enfin surtout moi, j'ai vraiment pas beaucoup joué. Et puis je vais aussi prendre le parti assumé de vous parler que de jeux qui sont sortis et que vous pouvez d'ores et déjà acheter. On parle souvent de proto, mais je sais pas en fait si c'est une bonne idée et si ça sert le jeu en fait, parce que quand on parle d'un proto sur un salon comme ça ou sur un festival, ben généralement on n'en reparle pas beaucoup après, pensant qu'on en a déjà parlé. Et je pense que c'est plus intéressant pour les jeux et même pour les auditeurs de parler plutôt de jeux qui sont sortis et que vous pouvez vous procurer dès à présent. C'est mon cas, je sais pas du coup tout à fait si Paul Gara et Fendwell vont vous parler de proto, mais voilà, j'explique un petit peu mon choix là-dessus.
Ouais, on va voir, je vais peut-être parler rapidement d'un proto, moi.
Ouais, bah après, si vous avez eu un vrai coup de cœur sur un proto...
Ah non, justement.
Ah
ouais, je devrais peut-être pas en parler, t'as raison.
Ok, non, mais c'est
le mec ne
le
sortira
aussi.
Jamais, c'est sûr, tu sais, il va t'écouter,
non,
c'est
mais
fini.
Comme ça, il a le temps de l'améliorer, c'est vrai, c'est pas
voilà,
plus
il
mal.
Prouve.
Mais j'ai fait le retour en live à l'éditeur, donc il n'y a pas de malaise là-dessus.
Pas de souci. Je vais commencer, je vais ouvrir les hostilités, ça va aller assez vite. J'ai le premier jeu en arrivant sur le salon, parce que leur stand est plutôt bien situé, c'est juste à l'entrée. J'étais sur le stand de Days of Wonder et on a testé Les Aventuriers du Rail New York. Alors, vous vous dites encore une énième déclinaison des Aventuriers du Rail, et pourquoi New York ? En fait, c'est vrai, c'est une nouvelle déclinaison, mais qui a une particularité, c'est que c'est un Aventurier du Rail qui se joue en 15 minutes. En gros, c'est à New York, donc il faut relier les quartiers de New York. Il y a différents modes de transport, c'est pas que du rail en fait. En fonction de la couleur, il y a du métro, du tramway, du taxi, enfin voilà, différents moyens de transport new-yorkais.
Donc le titre est mensonger déjà.
Oui, tout à fait, c'est pas que du rail, c'est les aventuriers du transport en commun New York. si on voulait être exact.
Merci pour ce rectificatif.
Et en fait, c'est assez sympa. Parce que c'est vraiment, on retrouve vraiment les sensations des aventures du rail avec exactement les mêmes règles, à un petit détail près, mais je vais y revenir. Et ça se joue en un quart d'heure parce que la map est très petite et que du coup, on a vite fait de vider
de
en
relier,
fait sa réserve de petits wagons. Et c'est surtout assez tendu en fait, on a vraiment le sentiment de course parce que les objectifs pour les remplir, bah, y a pas 36 chemins de traverse. On peut pas faire beaucoup de détours pour relier ses objectifs. Donc faut vraiment être le plus rapide sur certaines liaisons, surtout sur les objectifs longs. Et c'est assez sympa et ça joue vraiment en un quart d'heure pour le coup. Surtout bah là j'étais à une table avec des gens qui connaissaient les aventuriers du rail, donc forcément ça va vite. Hein. Puis les actions sont assez simples, c'est soit je prends des cartes, soit je pose des cartes pour placer mes wagons. Il y a un petit détail supplémentaire, c'est qu'il y a certains quartiers qui sont touristiques en fait. Et donc à chaque fois qu'on a une liaison avec un de ces quartiers, ça fait un point de victoire supplémentaire. Sur ces quartiers-là, donc c'est vraiment une petite règle additionnelle.
Et la carte change ou ces quartiers touristiques ils changent ou c'est toujours les mêmes ?
Non, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment figé sur le plateau. Tu vois, c'est Times Square, c'est.
Et t'as pas peur que justement ça entraîne une certaine habitude et qu'au final bah tu fais toujours les mêmes ouvertures.
Bah, non, parce que ça dépend aussi de tes objectifs. Tu sais, t'as toujours un objectif de liaison, donc. En fonction de tes objectifs, tu vas pas tout le temps faire les mêmes ouvertures. Je pense que c'est plus un petit tiebreaker. Voilà, ça rajoute. Je crois qu'en moyenne, nous, ça nous a rajouté 4 ou 5 points par personne. Quoi, c'est dans
mais
ces
au final, tout
sur...
le monde avait réussi à rejoindre 4
ouais,
ou 5 trucs.
Ouais, ouais
donc,
parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs chemins. C'est les quartiers touristiques, en fait, c'est ceux qui sont le plus reliés, j'ai l'impression. Enfin, c'est de là que partent un peu les chemins. Donc. Voilà. Mmh. Donc bonne surprise. J'avais donc c'est sorti récemment là, je crois. Hein. C'est disponible chez Philibert.
C'est à quel prix?
Alors c'est disponible à 17,90€.
1€ du quart d'heure, de la minute, donc c'est pas si mal.
C'est pas si mal. Et puis voilà, si vous allez sur le site de Philibert, hein, on mettra les liens comme d'habitude. Vous avez des petites photos du plateau, vous verrez que c'est vraiment un petit plateau pour les aventures du rail, mais c'est ça aussi qui est assez sympa. Pareil, il y a pas de chemin très long, c'est en moyenne c'est du deux wagons. Le plus long, il y en a un seul qui fait 4, donc c'est du 1-2-3 quoi en termes de longueur de chemin. Donc il n'y a pas besoin de récupérer beaucoup beaucoup de cartes de la même couleur. Il y a le système de joker aussi classique des aventuriers du rail, si vous connaissez. Enfin voilà, on retrouve vraiment ces sensations de jeu en un quart d'heure avec un peu plus de pression en fait sur les objectifs, parce que les chemins à prendre sont un peu plus compliqués à prendre.
Ok.
Bon, et vous, qu'avez-vous testé de sympathique?
Vas-y Paul Garage, t'en prie.
Alors moi, en arrivant, le premier jeu auquel on a joué, c'était Dark Souls, le jeu de plateau, The Board Game.
Ah oui, tout de suite, tu t'attaques avec du gros, quoi.
Ouais.
Alors en fait, c'était pas tellement prévu comme ça, parce que moi, j'avais un objectif bien précis, que d'ailleurs, au final, je n'ai pas vraiment atteint. Mais il se trouve qu'on est passé devant, et comme j'étais avec deux fans absolus du jeu vidéo, puisque Dark Souls est à l'origine un jeu vidéo de japonais, qui ressemble pas du tout à un jeu japonais classique, hein, mais
qui est très sombre, hein, qui est
très sombre, voilà, ouais. Une ambiance assez un peu gothique quand même, assez désespérée, où on meurt beaucoup, qui est très punitif. C'est donc c'est pour ça que il fait aussi l'objet un peu d'une, il y a un véritable culte, hein, les joueurs de ce jeu-là sont vraiment toujours des acharnés, ils rejouent beaucoup, ils refont beaucoup le jeu, parce que t'as vraiment c'est un jeu auquel t'as vraiment le sentiment de progresser plus tu y joues. Tu te balades pas dans le, enfin voilà, le jeu te récompense, il est très punitif, mais tu es récompensé, t'as toujours la satisfaction d'avoir dû progresser, t'améliorer pour réussir. C'est un jeu qui est très beau visuellement, donc avec une ambiance très sombre, très noire, très gothique, un peu malaisante par moments, enfin avec des créatures que tu rencontres malaisantes. Alors dans le jeu de plateau, c'est un jeu coopératif, avec bien évidemment des figurines qui sont assez réussies. Bien évidemment.
Mais dans le jeu vidéo, excuse-moi de t'interrompre, mais t'as un seul héros là. Comment tu fais, tout le monde incarne le héros à la fois?
Alors dans le jeu vidéo, quand tu joues normalement, t'as un personnage. Tu peux jouer en solo, mais t'as un système d'invocation qui te permet aussi d'invoquer d'autres joueurs pour t'aider. Donc c'est un jeu que tu peux très bien faire en fait, quasiment à part quelques passages que t'es obligé de faire solo, tu peux le faire intégralement à deux. Enfin en tout cas pour la version, enfin le dernier qui était sorti, hein, pas le remastered mais l'autre. Moi je l'ai fait qu'avec une autre personne. Pour le passé. Donc finalement, le fait que ce soit un jeu coopératif où tu peux être je pense que c'est quatre personnages et pas complètement délirant. Alors c'est, donc il y a des figurines qui sont très réussies, surtout pour sur les créatures. C'est un jeu en fait, tu composes avec des tuiles une sorte de donjon un petit peu, et tu vas explorer des pièces au fur et à mesure avec des ennemis qu'il va falloir battre. Et donc je disais, c'est un jeu punitif parce que quand tu meurs, tu retournes au début, enfin ton dernier checkpoint, mais tous tes ennemis reviennent, repop en fait.
C'est pour ça que c'est la même chose dans le jeu de société.
Et c'est exactement la même chose dans le jeu de société. C'est-à-dire que si tu vas avancer dans des salles, tu vas avoir des ennemis, des choses à faire, beaucoup de combats quand même. Moi, ce que j'en ai vu, c'est quand même principalement du combat. Et si tu meurs, il suffit qu'il y en ait un de ceux qui jouent qui meurt pour que tu retournes au début du donjon et tous tes ennemis reviennent. Donc là,
Les parties durent combien de temps? T'as fait toute une partie?
Alors non, on a fait... en fait, on avait un... Il nous proposait de faire un set de 4 tuiles. Donc 3 tuiles, la tuile de départ compte pas, donc c'est 4 tuiles, enfin 5 tuiles, mais une tuile de départ où il ne se passe rien. Il y avait donc 3 salles à explorer et un boss. Alors nous, en une heure, on n'a même pas été au boss, hein. On est mort bien avant, et là j'ai dit non, on va pas, sinon ce soir on y est encore.
Ça peut être très long, quoi.
Voilà, et en plus, alors, si tu veux, le jeu retranscrit bien, le jeu de plateau retranscrit bien l'esprit visuel, la mécanique du jeu vidéo, donc ça c'est assez réussi. T'as un système, bon, t'as des compétences, tu peux améliorer ton matériel, mais pour améliorer ton matériel, il faut que tu améliores certaines de tes compétences. Par exemple, une arme est trop lourde, tu pourras pas la porter, faudra que t'améliores telle compétence pour avoir le droit de porter telle armure, enfin, exactement comme dans le jeu vidéo. Donc tu te dis que pour avoir la super arme qui te permettra de tuer le boss, à la fin, il va falloir que vraiment tu meurs un grand nombre de fois, histoire que tu réussisses à t'améliorer, ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est assez bien fait. Je pense que le jeu respecte bien, mais après, le jeu, c'est le problème de ce genre de jeu coopératif, qui est d'une difficulté extrême, et qui est pas si facile, c'est pas genre du tout le genre de jeu facile à sortir, en fait. Enfin, tu le vois parce que t'as eu un problème de durée, un problème de difficulté qui est quand même, je pense, vite décourageant. Mm-hmm. Donc je pense que c'est réservé à des fans vraiment énormes du jeu vidéo, et en plus à des gens qui aiment ce genre de jeu coopératif. Et enfin, moi j'en connais peu en réalité, hein. Et qui ont du temps, donc ça fait beaucoup de conditions.
Bah, il y a ça, et aussi qui ont de l'argent.
Oui, alors le jeu est assez cher, je crois qu'il est entre 90 et 100, enfin une centaine d'euros à peu près.
Ouais, c'est ça,
il y a eu des extensions qui sont sorties aussi. Et par contre, ce que j'ai pas du tout aimé dans le système du jeu.
Juste pour te dire, il est à 109 euros. On parle bien du jeu de plateau, hein, ouais, 109 ouais. euros sur Philibert.
Voilà, tu pouvais l'avoir à 90, je crois, sur le festival. Enfin, il y avait une boutique qui le faisait. Après, je pense pas que le jeu est non plus vraiment cartonné, tu vois. Parce qu'il y a, bon, il surfe un petit peu sur la hype du jeu, quoi. Alors en fait quand tu combats, donc c'est beaucoup de combats, ce que je disais, donc il y a un système de déplacement, parce que dans le jeu tu perds beaucoup ton énergie, enfin ta stamina a beaucoup d'importance pour faire tes actions, et ils l'ont bien retranscrit dans le gameplay. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que quand tu attaques, tu vas choisir à chaque tour lequel des personnes, enfin des joueurs va attaquer. En fait le groupe de joueurs n'a le droit qu'à une attaque. En revanche tes ennemis, eux, s'il y a trois ennemis sur le plateau, les trois attaquent. Et ça, je ne comprends pas la logique. Enfin, ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de les vaincre. Donc les premiers ennemis que tu rencontres, les premiers mobs, c'est facile parce qu'ils sont pas très puissants et donc tu t'en sors. Mais dès que tu arrives à des ennemis un petit peu plus élevés, ça devient compliqué parce qu'il te faut je sais pas combien de coups pour les battre. Si tant est que bien sûr ça se fait au dé, donc en plus il faut que t'aies un peu quand même de réussite.
Et c'est frustrant, quoi.
Voilà, et je trouve qu'en plus il y a un personnage. Moi, je faisais le personnage du warrior, donc le plutôt gros bourrin, donc j'avais une bonne attaque et tout. Mon fils lui faisait le personnage du chevalier, qui est assez polyvalent, mais de ce fait qu'il n'est pas très fort non plus qui est mauvais nulle part, mais en fait bon non plus nulle part. Et du coup, il y avait des moments où carrément, de toute façon, c'était sûr que ce n'est jamais lui qui allait attaquer parce que il n'avait pas assez de dés comparé à la défense de l'ennemi. Et là, je me dis, c'est horrible, quoi. Pour celui qui se tape ce rôle-là, il fait chier comme un rat mort tout le long, quoi. Et bon, alors, nous, on n'était pas très convaincus par le jeu, quand même. Voilà. C'est très joli, c'est très chouette. Je pense que c'est un truc pour vraiment de collectionneur. T'es fan absolu du jeu vidéo, t'as les figurines des personnages chez toi, tu t'achètes le jeu. Comment ?
Que t'as peinte aussi, toi-même.
Voilà, que t'as peinte, et tu les exposes dans une vitrine, tu vois. Et une fois de temps en temps, tu te mets un setup du jeu, mais je suis pas sûre que tu fasses vraiment une partie.
Mais non, t'y joues pas, non, c'est pas fait pour être joué.
Non, je pense que c'est vraiment... En fait, c'est un objet de collection plus. Donc, en ça, c'est réussi. Et sur la mécanique, ils respectent bien le jeu vidéo. Mais après, le jeu, je pense, est injouable... Enfin, où tu fais trois tours comme ça, mais puis t'en as vite marre, quoi.
Putain, on va avoir des commentaires de fous, des fans qui vont s'écharper dans nos commentaires.
Là. Non, écoute, moi, mon fils et mon mari sont vraiment ultra fans du jeu. Ils ont eux-mêmes... Bon, mon fils, il a trouvé les figurines magnifiques, donc ça obscurcissait son jugement. Mais mon mari m'a dit que le jeu était pas extraordinaire, quoi. Donc,
c'est pour jusqu'à combien de personnes, du coup?
Je crois que c'est 4. Enfin, moi, j'ai vu 4 personnages qui étaient préparés, okay, qui étaient disponibles. Donc, guerrier, chevalier, assassin, enfin, un peu, tu vois, un peu assassin. Je sais pas si c'était le bon terme. Et puis, le héros qui se bat à la lance.
Ouais, mais en fait, t'as des. Si tu regardes sur Philibert, t'as beaucoup de petits packs avec des figurines supplémentaires, avec des nouveaux boss, en fait, en tout cas. Pas nécessairement des héros, mais t'as des nouveaux boss.
Oui, mais je pense que c'est ça, en fait, qui plaît aux gens. Enfin, il y a beaucoup dans l'univers. Je pense que les boss sont très... elles sont assez recherchées et je pense que c'est ça qui plaît. Donc, en fait, je pense que les figurines font que t'achètes... Ceux qui aiment les figurines et qui aiment le jeu, ils vont acheter juste finalement pour avoir les figurines.
Ouais, c'est bien. Donc, t'achètes le jeu à 110 euros ou 100 euros. Ensuite, t'achètes chaque boss, les packs de boss, c'est 50 euros supplémentaires.
Ah, c'est pas... Ça revient cher à la fin.
Il y en a une, deux, trois, quatre, allez, cinq, sans problème. C'est la fête.
Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, on l'a pas acheté.
Ok. Bon, et Fendoel, t'as pas joué, toi, du coup ?
Si, j'ai joué. Bah. J'étais avec Dédé Shoots, on s'est bien marré. Tu connais Dédé Shoots, c'était pas du gros jeu. on a joué, justement, chez Le Droit de Perdre, à Débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est génial. C'est un petit jeu complètement débile, un petit jeu coopératif, dans lequel on va, en fait, incarner des aventuriers de l'extrême, qui allons essayer de nous démerder pour atteindre notre but avec des objets complètement débiles. En fait, on est des sortes de MacGyver de l'impossible, et avec un séchoir, un coton-tige et une tronçonneuse, on va être capable de te faire une fusée ou ce genre de truc.
mais Dédé, on est capable, hein.
C'est vraiment MacGyver, quoi.
Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment du MacGyver. Je vais donc juste expliquer en très très peu de mots le principe. Donc nous on a joué à 4, donc il y avait 3 personnes qui étaient ensemble, on va dire, et une personne qui était à part, et puis cette personne qui est à part tourne, d'accord, donc en fait on tourne, on est tous dans la même équipe, mais il y en a un qui doit deviner, quoi, qui est différent des autres. Okay. Donc par exemple sur au début on montre aux 3 joueurs qui sont tout seuls 2 cartes, alors une première qui est par exemple traire une vache, et le deuxième c'est repasser une chemise, et ensuite eux, ils vont donc avoir comme choix imposé que, en fait, on va leur dire, voilà, ce que vous devez faire, c'est traire une vache. Et moi, j'avais les yeux cachés à ce moment-là et les oreilles bouchées, évidemment, à ce moment-là. Et on va me poser devant moi donc ces deux choses, traire une vache et repasser une chemise. Et en face de moi, j'ai 2 paquets de cartes, un qui où il y a marqué collant en nylon et l'autre qui s'appelle sabre laser. Et donc je dois demander à mes coéquipiers les uns après les autres, par exemple je vais prendre le sabre laser et je vais demander à Dédé Shoots, Dédé Shoots, est-ce que ça peut servir pour la mission qui nous a été confiée, donc soit traire une vache, soit repasser une chemise. Et donc il va me dire soit oui, soit non. S'il me dit oui, la carte elle reste devant, s'il me dit non, la carte elle est mise de côté dans une, on va dire, une pile de points négatifs. Et en fait, donc, je vais. Alors, c'est que des objets complètement débiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir un sabre laser, un avion en papier, voilà. C'est des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec traire une vache et repasser une chemise, comme vous l'avez compris. Le truc, c'est que, donc, ils vont me dire oui ou non. Et à l'issue de ces oui et non, en fait, je vais me retrouver avec 4 objets pour lesquels ils m'ont dit oui. Et grâce à ces 4 objets, je devrais être capable de deviner quelle était
la mission
qui était faite. Et si je devine la mission, on gagne en fait toutes les cartes, on les met dans une pile de cartes positives. Et en fait, toutes les cartes pour lesquelles ils m'ont dit non vont dans une pile de cartes négatives, qui vont être les points négatifs. Et on saura si on a gagné, si la différence entre les points positifs et les points négatifs sont en notre faveur. Dernier point, c'est qu'en fait, moi, j'étais le premier joueur à deviner, donc j'avais que 2 cartes à faire deviner. Le deuxième joueur, en fait, il a un choix parmi 3 cartes. Donc nous, on aura une carte, qu'on saura laquelle est la bonne, parmi 3 cartes. Le suivant, il va avoir 4 cartes, l'après suivant, je crois que ça s'arrête à 4 cartes. Ah non, 5 cartes, je crois.
Les cartes mission, tu veux dire ?
Ouais, les cartes mission. Donc en fait, la difficulté, elle augmente, mais la difficulté aussi, elle s'adapte. Si jamais on se plante, le jeu, il redescend d'un niveau. Donc en fait, le truc va s'adapter. Et alors, petit fun, et là, on reconnaît bien le droit de perdre, c'est qu'à la fin, quand tu as tes 4 objets complètement stupides pour, par exemple, repasser ma chemise ou traire ma vache, par exemple, mon sabre laser, mes collants en nylon, etc., l'idée, c'est qu'on doit essayer d'imaginer la façon dont on s'est débrouillé avec ces objets complètement stupides pour réaliser l'opération. Et voilà, ça nous fait un point bonus ou un truc comme ça, enfin voilà. Donc c'est assez c'est marrant, c'est léger, ça se joue vite, c'est des grands fous rires, on s'est bien marré, et voilà. Donc c'était une recommandation d'Eddie Schutz et je le remercie parce que on s'est bien amusé. Voilà.
Ok, c'est disponible chez Philibert pour 12,90€ et c'est de 2 à 6 joueurs.
Et en plus c'est pas cher, c'est super.
C'est vraiment pas cher. Ça peut faire le petit achat qui vous fait arriver à 60€ pour avoir les frais de port gratuits, ça.
Faut que j'arrête de parler prix parce qu'on va avoir l'impression que je suis pingre et tout. Enfin, bref.
Mais non.
Alors, BenoFX, un nouveau jeu.
Bah, ouais, alors moi, je crois que c'est sorti, je sais pas quand c'est sorti, je crois que c'est sorti il y a quelques temps quand même, mais j'ai fait ma première partie de Galerapagos samedi. Donc Galerapagos édité par Gigamic. Donc qu'est-ce que c'est que Galerapagos? Alors c'est un jeu, on va dire, coopératif, parce que tous les joueurs sont ensemble. Mais coopératif.
Pute.
Pute, ouais, très, ouais. Je cherchais un mot plus délicat, mais c'est un peu ça. C'est coopératif avec, avec coup fourré, quoi.
Mais si tu poignardes l'autre, t'as plus de chances de gagner. Donc pas si coopératif que ça.
Ouais, ouais, ouais. Alors comment ça se passe? En fait, c'est assez simple, finalement. Galerapagos, ben, vous jouez en fait des échoués. Leur bateau a fait naufrage. Et vous êtes donc un groupe de survivants qui se retrouve sur une île déserte. Bah, il va falloir survivre. Ça va être assez dur déjà de trouver de l'eau et de la nourriture. Et bah, il va falloir essayer de s'échapper de l'île aussi parce que vous n'allez pas rester là éternellement. Donc ça joue de 3 à 12, je crois. C'est un jeu qui peut vraiment jouer à beaucoup.
Et c'est sympa d'y jouer à beaucoup en plus.
Et ouais, c'est plus sympa d'y jouer à beaucoup. Et en fait, c'est assez simple. À votre tour de jeu, vous avez le choix entre 4 actions possibles. La première, c'est chercher de l'eau. La deuxième, c'est chercher de la nourriture. La troisième, c'est chercher du bois pour construire un radeau. Et la dernière, c'est visiter en fait l'épave de votre bateau pour récupérer des objets. Donc ça paraît simple. Et comment ça va se passer? En fait, vous allez tous ensemble, tous les joueurs ont un stock d'eau et un stock de nourriture qui, à la fin de chaque tour, en fait, va baisser d'autant qu'il y a de nombre de joueurs. Donc il faut savoir qu'au niveau de la quantité d'eau et de la quantité de bouffe, au début de la partie, vous avez, je crois, tout juste de l'eau pour tenir 2 tours et de la bouffe pour même pas 2 tours de jeu. Et quand vous allez en récupérer, bien sûr, c'est souvent 1, 2 ou 3 à la fois maximum. 3, c'est quand vous avez de la chance, mais c'est souvent vous allez récupérer 1 ou 2 à la fois par joueur par tour.
Donc autant dire que la situation va se dégrader très vite.
C'est ça, c'est super tendu au niveau de la bouffe et de l'eau. Donc simplement, comment on cherche de la bouffe? Il y a un espèce de sac en toile de jute. Dedans, il y a 5 ou 6 petites billes, enfin grosses billes quand même, des boules
en
un
bois.
Peu comme en bois, des boules en bois. Vous allez piocher et en fait, sur les boules en bois, il y a un nombre de poissons qui varie de 1 à 3. Et ça, c'est juste le nombre de nourriture que vous allez ramener ce tour-ci. Vous tirez une seule boule. Pour l'eau, c'est un peu différent. En fait, à chaque tour, il va y avoir une météo. Ça fait aussi un espèce de contre-tour parce qu'il y a plein de manières de perdre dans ce jeu-là. Et notamment, il y a stat carte météo qui est mélangée. Et la dernière carte, c'est une carte ouragan, je crois, ou un truc comme ça. Et
L'une des dernières.
Ouais, une des dernières. Et donc, quand vous tombez sur l'ouragan, de toute façon, si vous n'avez pas les radeaux nécessaires pour partir, c'est perdu. Vous êtes tous morts. Et donc là, sur ces cartes météo, ben, il va pleuvoir pas du tout, un peu ou beaucoup. Et ça, c'est la quantité d'eau que vous allez pouvoir ramener à votre tour de jeu. Donc il y a des tours où bah, il fait sec, donc vous pouvez pas ramener d'eau potable.
D'accord,
donc si là,
ouais.
Vous avez pas prévu des réserves suffisantes à la fin du tour, c'est un peu chaud.
C'est compliqué.
Et voilà, il y a des ça va de 0 à 3. Donc il y a des tours où il pleut beaucoup et vous allez pouvoir récupérer à chacun de vos tours de jeu 3 eaux. Ensuite, il y a le bois pour construire des radeaux. Donc quand vous allez chercher du bois, vous gagnez un bois d'office et après vous pouvez vous enfoncer dans la forêt pour chercher plus de bois. Donc ça se manifeste aussi avec le petit sac en toile de jute, avec les 6 petites boules en bois qu'il y a dedans. Et parmi les boules en bois, donc il y a des poissons dessinés dessus, mais là on s'en fout, vous allez pouvoir choisir combien de bois vous voulez essayer de ramener en plus de la forêt. Et donc là vous décidez combien de boules vous sortez du sac. Donc il y en a 6 maximum, mais attention, parmi ces 6 boules, il y a une boule noire, comme à Motus. Et si vous tombez sur la boule noire, bah, c'est que vous avez fait une mauvaise rencontre dans la forêt.
Et tu ramènes rien du tout?
Bah non, vous vous êtes fait mordre par un serpent. Donc,
c'est
non
beaucoup plus galère.
Tu ramènes rien du tout, mais en plus, t'es malade pour, jusqu'à
d'accord.
ton prochain tour.
Donc c'est-à-dire, t'es un point c'est-à-dire mort pour le groupe.
C'est ça, ouais.
Tu peux pas faire d'action, tu peux rien faire.
Tu fais que manger.
Ouais. C'est ça.
Tu consommes, tu bois.
Donc ouais. Imagine quelle est la première personne que tu balances à ce moment-là.
Oui, parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que si à la fin d'un tour, il n'y a pas assez d'eau ou s'il n'y a pas assez de nourriture, eh bien il va y avoir un vote pour savoir qui on sacrifie. Parce qu'il y en a forcément un qui va mourir de déshydratation.
Ça peut être plus d'un.
C'est un par nourriture ou par eau manquante.
Et il y aura à chaque fois un vote pour éliminer les personnes.
Ça me paraît bien violent.
Ah oui, on commence par voir le nombre d'eau. S'il manque 3 eaux et qu'on est 9, bah on va en éliminer 3 déjà parce qu'il manque 3 eaux. Et ensuite, par exemple, s'il nous restait que 5 bouffes, on n'était plus que 6, parce qu'il y en a 3 qui sont morts avec l'eau, mais on va encore en éliminer un parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour les 6. Donc voilà, c'est assez violent.
Et c'est rapide, c'est ça qui est bien.
C'est assez rapide. Pour les radeaux, en fait, comment ça va se passer? On va construire un radeau tous les 6 bois qu'on ramène, je crois. 5 ou 6 bois. Enfin, il faut ramener 5 ou 6 bois pour faire un radeau. Et on ne peut partir de l'île que s'il y a assez de radeaux, ou s'il y a au moins un radeau par survivant.
Oh là là.
Et que si on a au moins encore assez de bouffe à emmener sur le radeau, donc au moins une bouffe et une eau par survivant sur le radeau. Il faut qu'il reste au moins ça.
Finalement,
pour pouvoir
partir. Intérêt à emmener moins de gens sur les radeaux, quoi.
Alors voilà, il y a un subtil équilibre entre, ben, de toute façon, faut que je sois dans les derniers parce que il y a besoin de moins de radeaux et puis au fur et à mesure on va les construire et on essaye de survivre tous ensemble parce que quand on est tous ensemble, on fait plus d'actions par tour aussi.
Je pense que tu peux parler un petit peu des objets aussi.
Voilà, alors je viens sur le dernier élément. Dans le fameuse cale du bateau, on peut récupérer des objets. Donc on en a déjà 3, je crois, 3 ou 4 au début de partie. 3, je crois. On distribue 3 objets aléatoirement aux gens. Et à la place de travailler pour la communauté, on peut aussi aller chercher des objets au bateau. Donc là, les objets arrivent dans notre main et donc sont personnels. On peut très bien les échanger avec des gens. D'accord ?
Okay.
Et dans les objets, il va y avoir plein de choses rigolotes. Déjà, il peut y avoir de la bouffe ou de la boisson. Donc la bouffe ou la boisson, tu peux la jouer soit à n'importe quel moment en disant j'offre de la boisson, une boisson à la communauté, et donc tu fais monter la jauge de boisson un peu plus vite que si tu vas chercher de l'eau, enfin en plus en tout cas des eaux que tu vas chercher.
Ou juste au moment où tu dois boire quelque chose.
Tu peux aussi la garder pour toi, et s'il y a un vote pour dire on élimine des gens parce qu'il n'y a pas assez d'eau,
bon, ils boiront pas par exemple, ouais.
Voilà, toi tu boiras pas, donc tu vas mourir, et tu peux faire non, j'ai ma petite bouteille dans la poche. Donc
et
vous allez bien vous faire.
Et vous allez bien vous faire sera terrible.
Et donc je meurs pas à ce tour-là et au prochain tour vous allez prendre cher. Donc voilà, il y a de la bouffe ou de la boisson qui peut être jouée comme ça. Il y a de la bouffe et de la boisson empoisonnée aussi ou croupie. Donc ça tu peux le faire aussi de la même manière, sauf que tu vas être malade le tour d'après, comme quand tu te fais mordre par un serpent, c'est-à-dire que tu meurs pas mais en même temps tu vas rien faire au tour d'après.
T'es quasiment.
C'est un petit sursis quoi. Après il y a des objets qui vont justement te servir un peu à récolter de l'eau plus vite, à ramener plus de bouffe, à couper plus de bois. Il y a une hache par exemple qui permet de récupérer 2 bois direct sans piocher dans le sac et après tu vas encore en chercher autant que tu veux. Il y a un gourdin, un espèce une grosse massue qui dit que toi ton vote il compte double quand tu dois voter pour les gens que tu vas laisser mourir. Il y a plein de choses comme ça et puis il y a des objets qui servent à rien. Je crois que nous on a eu une brosse à chiottes où il y a écrit cet objet ne sert absolument à rien ici ou un truc comme ça.
Tu peux avoir un slip aussi, tu peux avoir, il y a plein de trucs.
Ouais. Voilà, il y a plein d'objets rigolos et donc c'est une expérience c'était assez amusant. Mais c'est assez frustrant aussi parce que c'est ce genre de jeu à élimination quand t'as l'impression
mais faut enchaîner, c'est évident.
Ouais, c'est ça.
T'es trop
quand
frustré.
T'as l'impression que tu fais tout bien, tu vois que tu vis pour le groupe et tout ça et que finalement tout le monde vote contre toi, tu te fais éliminer. C'est un peu dur, mais après la partie va suffisamment vite pour que tu sois pas mise à l'écart pendant
oui, c'est ça.
Pendant
mais
trop longtemps. Oui, parce que sinon ça peut être un peu désagréable.
C'est un jeu,
c'est un jeu
d'élimination, hein. Ça peut, tu peux sortir assez vite et attendre 15-20 minutes que la partie se termine, quoi. C'est un des risques du jeu.
Bon, la durée est suffisamment courte et en général, tu es frustré, mais tu regardes un peu ce qui se passe.
Voilà. Okay. Donc c'est collaboratif parce que tu ne peux quitter l'île que tous ensemble, enfin tous les vivants ensemble, tous les
survivants
ensemble.
Non, tu peux très bien quitter l'île seul.
Non, je crois pas.
Bah, pourquoi ? Si tu te débrouilles à la fin si tu te débrouilles pour avoir le revolver et la balle, enfin t'as des objets plutôt sympas qui permettent d'imposer le calme.
T'as le aux autres.
Parce que nous, tu vois, on n'a pas eu le pistolet.
En fait, le pistolet, t'es obligé de l'avoir avec la balle, donc c'est un truc assez compliqué. Et en fait, ça te permet juste de tuer quelqu'un. Donc en fait, l'intérêt, ça peut éventuellement, si t'es à deux à la fin et qu'il n'y a pas assez de bouffe, il peut y avoir 2 radeaux ou quoi que ce soit. Mais s'il n'y a pas assez de bouffe pour faire le voyage, tu dis
tu règles le problème définitivement.
Ouais, j'ai tombé sur un objet marrant aussi. C'est un coquillage, mais c'est un peu collier d'immunité de Koh-Lanta, quoi. C'est quand t'as le coquillage, le tour là, personne peut voter contre toi. Personne peut t'éliminer, donc tu peux. Moi, en fait, au premier vote, parce qu'il y avait pas assez d'eau, j'ai stressé et j'ai joué direct C'est genre, oh, pas, je joue ça parce que j'ai pas envie qu'on vote contre moi. Et en fait, les gens avaient de l'eau et de la bouffe dans leur sac. Donc, ils les ont sortis. Donc, on avait assez de bouffe, assez d'eau. Donc, il n'y a pas eu de vote. Et du coup, comme c'est valable qu'un tour, bah.
Bye bye.
J'ai utilisé mon collier d'immunité pour rien. Enfin, voilà, Galerapagos, un bon moment. C'est rigolo. Ça peut être très punitif. Puis, il faut pas jouer avec des gens trop susceptibles parce que.
Ah oui, c'est clair.
Voilà, c'est vraiment. Ça peut vraiment foutre les boules, quoi, quand.
Ceci est
en fait,
un jeu.
Finalement, il vaut mieux jouer avec des gens que tu connais pas, parce que tu t'en fous de.
Ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'ai joué avec moitié de gens que je connaissais, moitié de gens que je connaissais pas. Et ça s'est plutôt bien passé. On avait réussi à construire quand même pas mal de radeaux, mais finalement, tout le monde est mort à la fin par pénurie de bouffe et de boisson. Personne s'est échappé. Donc,
d'accord.
C'est la petite satisfaction aussi quand tu t'es fait éliminer avant, quand ceux qui t'ont éliminé arrivent à survivre, tu te dis bon, bah voilà, avec moi peut-être que vous aurez eu une chance. Voilà pour Galerapagos, donc c'est disponible chez Philibert à 19,90€. C'est pour 3 à 12 joueurs. C'est un bon petit jeu d'enfoiré et en 30 minutes à peu près. Paul Gara, voulais-tu nous parler d'un autre jeu ?
Moi, je vais vous faire un petit pêle-mêle. On a joué en version surdimensionnée, oui, c'est à Docteur Eureka. Donc, c'était très chouette de jouer avec les grands tubes, etc. Moi, j'y avais jamais joué, donc c'est vraiment un jeu très sympa et c'était bien d'avoir cette version-là. On a joué à Décrocher la Lune, que tu avais brillamment chroniqué.
Tout à fait.
Mon fils y avait déjà joué, pas moi, donc avec les grandes échelles, donc assez sympa.
Ah oui, surdim aussi, ouais. En surdim, il est vraiment.
Franchement,
cool.
C'était très chouette. On a eu la chance, on est arrivé au moment où cette table-là était libre. Donc ça redonne encore plus de plaisir dans la manipulation, mais c'est assez coton quand même de faire tenir les échelles.
Ouais.
On a joué aussi à Concept Kids. Donc moi, je ne connaissais pas Concept, je n'y avais pas joué.
Moi, je savais pas qu'ils avaient sorti un Kid.
Ah ouais,
voilà,
moi non plus.
Je crois qu'il est pas encore sorti. Il va sortir, si j'ai bien compris, plutôt à la rentrée. Donc là, il est en phase vraiment de dernier test. Donc c'est moi j'ai jamais joué à Concept. Mon fils connaissait. C'est là, tu dois faire deviner des animaux avec des niveaux de difficulté. Donc en gros, tu fais deviner par les couleurs, la taille, est-ce qu'il a des crocs, est-ce qu'il pique, enfin des trucs comme ça en fait.
D'accord.
Donc moi c'est pas de toute façon le jeu de base, je pense que c'est pas du tout mon style de jeu. Après c'est très sympa à jouer, pour jouer avec des enfants c'est bien, ça s'enchaîne vite, hein. Enfin tu fais des cartes, donc c'est toujours pareil, hein. T'es deux, enfin nous on a joué à trois, on est deux, on doit faire deviner à l'autre l'animal. Donc ça tourne très bien, c'est parfait, voilà, un jeu que tu peux faire avec des enfants, tu peux laisser les enfants jouer entre eux, ça je pense que ça tourne très bien. Et t'as quelques animaux un peu plus difficiles que d'autres, malgré tout. Enfin, faut bien t'y connaître en insectes, hein. On a eu beaucoup d'insectes, donc faut se préparer. Et on a joué à Mr. Wolf, alors je sais pas si c'est sorti, je ne crois pas, qui est un jeu de memory, un memory coopératif, un peu comme dans Le Verger. Donc t'as un champ, t'as des petites cabanes, tu mets des tuiles dessus, t'as des combinaisons en fait d'animaux à trouver. Donc après tu vas retourner tes petites pastilles avec les animaux, donc pour essayer de les mettre dans les petites maisons qui ressemblent un peu à des tirelires. Donc il faut à la fois essayer à chaque fois et puis il y a des loups dedans. Donc si tu t'en retournes un loup, bah le loup avance sur un chemin et s'il arrive dans le champ avant toi, avant que t'aies fini, bah il a gagné et tout le monde a perdu. Et ce qui est pas mal, c'est que t'as deux niveaux de mémoire, c'est-à-dire que tu dois te souvenir de ce que t'as retourné, mais tu dois aussi te souvenir de ce que t'as déjà mis dans les petites maisons.
D'accord.
Tu vois. Donc ce qui fait que c'est assez habile. C'est à partir de 4 ans. Nous on a trouvé ça bien, on a perdu. C'est rassurant. Tu vois, on a retourné trop de fois le loup. Donc c'est un peu voilà, normalement c'est un peu la honte quand même, mais non j'ai trouvé ça vraiment pas mal, c'est très mignon, ça pour des enfants dans la cible c'est parfait. Bon, c'est encore beaucoup de jeux de mémoire, hein, pour ces âges-là souvent ce qui est proposé, mais ça j'ai trouvé que ça c'était chouette. Et puis comme t'as des petites maisons, enfin du coup t'as un effet en visuel, quoi, puisque ça te fait des petites cabanes avec les petites fentes pour mettre les jetons des animaux quand tu les as trouvés. C'est assez chouette pour des enfants.
Ouais, bah il est disponible, hein, chez Philibert. Voilà, 19,90€, il est sorti a priori.
C'est très sympa. Voilà, ça te révolutionnera pas l'expérience de jeu, mais enfin en même temps pour des enfants de 4 ans, t'as pas la même. En fait, il vaut mieux des valeurs sûres, des choses dont tu sais que ça marchera avec peu de risque, quoi. Donc c'était le voilà en vrac des jeux plus où tu peux jouer
un
vraiment avec des enfants, ouais. Voilà.
Ok. Fenduel, t'as essayé d'autres choses sympas?
Ouais, j'ai essayé Deckscape. Alors Deckscape, c'est en fait globalement un petit peu comme un Unlock.
D'accord. C'est un autre jeu d'escape comme Exit ou Unlock.
C'est ça. C'est un. Bah, c'est, d'ailleurs, c'est une recommandation de Siol. Je le remercie pour ça. Donc c'est un petit jeu, mais juste avec des cartes, sans application outre mesure. Et tu as tout simplement. Alors c'est extrêmement simple. Tu as une énigme sur chaque carte. Donc voilà. La carte est devant toi. Tu as une énigme sur chaque carte. En fait, tu vas. Alors je pense que c'est comme ça, tu vas avoir plusieurs paquets de cartes. Alors, j'explique pourquoi je dis je pense. Parce que j'ai acheté une boîte, mais ce qu'on avait sur le salon, c'était juste des cartes de démo. Et donc, en fait, donc, je vais expliquer plutôt ce que j'ai vu en démo, et ensuite je vais vous expliquer, parce que j'ai acheté une boîte, et je vais vous expliquer ce qu'il y a dans la boîte, ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas encore joué. Dans la démo, il y avait trois petits tas de cartes, et donc sur chaque tas de cartes, en fait, il y a une énigme que tu peux résoudre. Quand tu l'as, en fait, bah, par exemple, ça va être un chiffre à deviner. Quand tu as deviné le chiffre, tu penses que tu as bon, tu retournes la carte. Si tu as bon, bah, c'est bien. Si t'as, et tu peux utiliser cet objet que tu as trouvé pour éventuellement autre chose, je vais y revenir. Mais si tu n'as pas bon, tout simplement, ça augmente la durée du temps que tu as pour faire le truc de 5 minutes. C'est-à-dire que tu as perdu 5 minutes.
D'accord.
C'est tout. Tu as juste besoin en fait d'un chronomètre que tu peux augmenter de 5 minutes à n'importe quel moment. Ou alors noter, si tu veux, les points en négatif. Quoi.
Ouais.
Oui.
Les minutes que tu rajouteras à la fin.
Voilà. Tu n'as pas d'indice, par contre. Tu n'as pas, comme à Unlock, tu n'as pas d'indice, tu n'as pas ce genre de choses. Mais enfin bon, ensuite, il y a beaucoup de personnes
qui... Comme Exit, t'as pas, tu vérifies directement, en fait.
Ouais, c'est ça. Tu retournes la carte, tu vérifies si c'était bien le truc. Si c'est bien le truc, en fait, tu as en général gagné un objet qui va te permettre éventuellement de résoudre une autre énigme, éventuellement sur les autres paquets de cartes.
D'accord.
Et ça libère une nouvelle carte qui est une nouvelle énigme que tu peux faire avancer. Donc voilà. Donc c'est ça l'idée. Ça peut éventuellement, donc les nouveaux objets que tu as trouvés vont te permettre éventuellement de résoudre des énigmes que tu n'arrivais pas à résoudre parce que, bah, effectivement, il manquait une pièce au puzzle. Et la pièce au puzzle, bah, tu l'as ramené à ce moment-là. Et c'est assez malin. En tout cas, les énigmes qu'il y avait dans la démo étaient plutôt malignes. Il y en a certaines qui étaient assez simples, d'autres qui étaient plutôt sympas. C'est pas d'un niveau super, super élevé. Je pense que c'est jouable avec des enfants éventuellement, tu vois, c'est enfin plutôt voilà, c'est pas hyper élevé, donc c'est un côté assez satisfaisant de pouvoir le faire. Et donc sur le, donc actuellement il existe trois boîtes, donc t'as une boîte qui est le destin de Londres, une autre c'est braquage à Venise et une autre c'est à l'épreuve du temps, avec différents thèmes. Donc braquage à Venise, tu organises un braquage. Le destin de Londres, c'est tu dois sauver Big Ben qui doit exploser, il y a une bombe dans Big Ben, un truc comme ça. Et à l'épreuve du temps, c'est du voyage dans le temps. Et donc, bah alors moi j'ai acheté l'une des boîtes, je crois que c'est Londres ou Venise, enfin l'un des deux. Et en fait, dans la boîte, donc t'as les cartes qui sont déjà protégées, c'est-à-dire t'as un truc sur le paquet de cartes et sous le paquet de cartes pour pas te montrer évidemment le dessus et le dessous du paquet de cartes, parce que je pense que Heidi, retournez cette carte une fois que vous avez défait l'emballage. Et également en dessous du paquet de cartes, dans ma boîte, j'ai une carte de Londres, une carte du braquage, enfin je sais plus ce que c'était. Donc voilà, qui avec marqué n'ouvrir cette carte que quand vous avez quand on vous le demande, quand on vous le demande, tu vois. Donc c'est une carte, mais une carte, je veux dire une carte géographique, hein, de voilà. Donc je pense qu'il y a une mécanique également avec ça, et voilà, j'en sais pas plus. J'ai fait exprès de prendre une boîte différente de Siol. Bah, s'il m'écoute, si jamais il l'a fait et que je l'ai fait, bon, on pourra éventuellement s'échanger les boîtes. Mais voilà, donc c'est ça un petit peu le concept. C'est léger, ça coûte, je crois que c'était c'est une dizaine d'euros aussi, c'est un petit jeu de cartes. Et puis bah voilà, donc c'est à essayer, franchement, j'y ai joué avec plaisir, et puis bah, j'ai emporté la boîte, voilà.
Bah ouais, merci parce que j'en avais pas entendu parler. Et puis nous, avec un groupe d'amis, là, on cherche toujours un peu des jeux d'escape comme ça, oui. Par carte.
Voilà.
Et oui, si tu dis que c'est faisable avec des enfants, a priori c'est bien parce que ça, Unlock, c'est pas possible par exemple.
Alors, je t'avoue, j'ai pas du tout testé la vraie boîte, le vrai jeu en vraie boîte.
Enfin, c'est ton ressenti parce que tu vois, Unlock, mis à part le tutoriel, c'est pas du tout faisable. Et c'est un peu dommage parce que c'est le genre de jeu
j'ai trouvé ça plus simple que Unlock, en tout cas sur l'appli de démo. Voilà. Alors c'est rigolo parce que c'est édité par Super Meeple, qu'on connaissait absolument pas pour éditer des jeux en autres que des rééditions. Alors c'est une localisation italienne. En fait, c'est des jeux italiens. Les auteurs sont tous italiens et je connais pas du tout les auteurs, mais peut-être à tort, mais voilà, donc c'est italien, et puis ça nous vient de Super Meeple, qui nous avait habitué plutôt à des adaptations, de réadaptations de gros jeux qui étaient sortis il y a très longtemps, voilà. Ouais, exactement.
Oui, puis c'est des prix réseau, enfin, ça te fait 11, enfin, je vois 11,90, voilà, pareil que pour atteindre les 60 euros sur certains.
Oui, voilà,
c'est le petit complément.
Voilà, ça, tu te dis que tu perds pas grand chose à essayer, quoi. Enfin,
ouais, bah voilà, moi ce que je vous recommande, si vous comptez l'acheter, vous débrouillez avec vos potes et puis chacun prend une boîte et puis vous échangez les boîtes quand vous les avez faites, éventuellement.
Ouais, voilà. Parce que contrairement à Exit, du coup, c'est aussi rejouable, quoi. C'est pas comme Exit où tu détruis du matériel.
Enfin, je suis quasi sûr que c'est réutilisable parce qu'encore une fois, j'ai pas ouvert ma boîte.
Ça
j'ai laissé le film plastique.
Voilà. Après, si c'est que des cartes, il y a plus de chances, ouais, que ce soit réutilisable. T'as pas un carnet comme dans Exit, quoi.
Benoît, qu'est-ce que tu nous sors de ta besace?
Pour terminer, on va rester dans les petits jeux en niveau tarif en tout cas, et puis sur du jeu d'ambiance. J'ai testé Kokomo, donc chez Pixie Games. Donc ils en avaient parlé, je crois, pendant l'interview que vous avez menée. Donc
ah oui, c'est le passage en musique, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
C'est l'hommage aux Beach Boys.
Kokomo, c'est un titre des Beach Boys, effectivement. Mais là, c'est Coco et Mo, M-O-T-S, parce que c'est un petit jeu de mots assez frénétique. On est un peu sur...
Par jeu de mots, tu veux dire jeu de lettres, c'est ça?
Oui, jeu de lettres, jeu de mots. On est un peu sur un jeu type mot pour mot, justement. Enfin, ça peut être chacun pour soi, mais c'est plus rigolo, je pense, quand c'est deux équipes qui s'affrontent. Et contrairement à mot pour mot où il va falloir trouver un mot pour ramener le plus de lettres vers son camp, là en fait on a pendant le temps de sablier, il faut trouver plein de mots. C'est frénétique, il faut en trouver le plus possible parce qu'en trouvant des mots, on va récupérer des cartes qui vont faire des points et le but c'est on va avoir un certain nombre de tours qui sont définis par le nombre de cartes qui restent devant dans la pioche, mais en gros les équipes s'affrontent pour essayer de ramasser le plus de cartes à leur tour de jeu qui dure un sablier. C'est pas en même temps, c'est chaque équipe va jouer un sablier l'un après l'autre pour essayer de trouver le plus de mots. Alors comment ça marche exactement? En gros, il va y avoir 5 paquets de cartes avec des thèmes, 4 paquets de cartes avec 5 thèmes à chaque fois, je crois, qui sont en forme de pioche, et en dessous de ces 4 thèmes il va y avoir 2 pioches de lettres en dessous de chacun de ces paquets. À chaque fois, 2 pioches de lettres, avec 5 lettres aussi dans chacune des 2 pioches. Donc, s'il y a 4 mots, ça fait 8 pioches de lettres et les 4 pioches de thèmes. Et les équipes ou les joueurs dans leur main, 3 cartes avec des lettres dans sa main. Donc, il y a les cartes thèmes, il y a les cartes lettres, les tas de cartes lettres qui sont en dessous des cartes thèmes, et on a 3 cartes lettres dans sa main, et à chaque fois on refait sa main à 3 cartes à la fin de chaque utilisation de carte. Donc pendant le temps du sablier, en fait, faut qu'on trouve un mot en rapport avec un des thèmes. Par exemple, il y avait un thème, c'était jouer, et en fait avec les cartes qu'on a en main et avec les cartes, enfin les pioches de cartes qu'il y a en dessous du mot jouer, du thème jouer, il faut qu'on trouve un mot en rapport avec ce thème qui utilise au moins une carte parmi les deux qui sont parmi les deux lettres en fait qui sont sous le mot, plus une carte minimum de notre main. Il faut qu'il y ait ces lettres-là dans le mot. C'est pas je suis pas obligé d'appeler le mot complet, mais il faut qu'il y ait ces lettres-là dans le mot. Alors bien sûr, je peux utiliser plus qu'une carte de ma main, et si je peux utiliser les deux lettres qui sont disponibles en dessous du mot. à chaque fois que j'utilise des cartes, en fait, chaque carte va me rapporter un point. Donc plus j'utilise de cartes, plus je vais faire de points. Et donc si, après avoir trouvé ce mot, j'ai encore du temps dans le sablier, je vais refaire ma main à 3 et je vais regarder ce qu'il y a comme autre thème, sachant qu'il y a plusieurs thèmes qui sont superposés, il y a un autre thème qui va être en dessous, il y a les thèmes d'à côté, etc. Il faut trouver le plus de mots comme ça, avec le plus de thèmes possible. Quand on trouve un thème aussi, on prend la carte thème correspondante, qui rapporte aussi un point. Et après, il y a des lettres un peu particulières, où c'est avec des contraintes. Il faut que la lettre soit au début du mot, à la fin du mot, ou en deuxième position dans le mot. Et si on arrive à utiliser ces lettres-là, ben pareil, on les met de côté, ça nous fera des points à la fin, et celles-là valent 2 points plutôt qu'un. Donc c'est un jeu de lettres, un jeu de mots relativement sympathique, un peu dans la même veine que mot pour mot, beaucoup plus frénétique. C'est vraiment un jeu d'ambiance où on va essayer de trouver le plus grand nombre de mots dans le temps imparti. C'est vraiment un jeu auquel faut jouer de manière, enfin faut s'amuser quoi. Nous on n'a pas hésité à un peu charrier l'équipe adverse. Enfin voilà, c'est un jeu rigolo. Ça se joue assez vite. Par équipe, je pense que c'est plus marrant aussi que de manière individuelle. Et c'est vraiment le petit jeu d'ambiance frénétique autour de lettres et de thèmes qui fonctionne plutôt bien.
Ok.
Et c'est disponible en précommande chez Philibert. Ce sera 13,50€ et je crois que c'est dispo à partir du 6 juillet. Et il y avait déjà quelques boîtes en vente sur le festival.
Sur le festival, ok.
C'est à Paul Garin maintenant, non?
Ouais, est-ce que vous avez d'autres jeux? Moi, c'était un peu le dernier jeu édité ou presque.
Ouais, j'en ai un dernier auquel on a joué. Oui, donc un jeu auquel qu'on a pour le coup bien aimé, qui sort en septembre prochain chez Rune Edition, Lindisfarne. Donc Lindisfarne, c'est historiquement le premier, je dis pas de bêtises, hein, le premier village anglais qui a été attaqué lors des invasions vikings. Donc voilà, il y a la thématique viking. C'est un jeu de dés. Donc en fait, on va avoir un plateau composé de 3 tuiles. Et on a un pool de dés qu'on jette, et on a le même nombre de jetons que le nombre de dés qu'on jette. Et en fonction des dés, on va pouvoir placer nos jetons sur les plateaux. Et le but, c'est d'avoir des majorités. Donc ça peut être la plus grande suite, par exemple, sur un des plateaux, ou bien la plus grande somme, en fonction de là où t'auras posé, bah si t'as plus de 6, de 5, etc. Et ou bien un autre, c'est la plus haute pile. Et à chaque plateau est associé 2 cartes. Et donc, finalement, si t'as la majorité, bah tu premier qui a la majorité choisit une des cartes. Et ensuite, celui qui arrive derrière lui, bien sûr, peut choisir la deuxième. Et forcément, bah quand t'arrives troisième, tu n'as rien. Sauf si un de ceux qui jouent avant toi a préféré ne pas prendre de carte et a préféré prendre une carte objectif. Donc ces cartes, elles représentent, en fait, elles ont des fanions en fonction des peuples. Donc tu vas retrouver la Norvège, l'Écosse, l'Angleterre, etc. Enfin France et tout. Tu as 5 ou 6 cartes par pays, et chaque carte, ça forme une fresque un peu. Enfin, tu vois, un peu comme dans Majesty, où t'as un dessin qui se forme quand tu places toutes tes cartes côte à côte. Donc là, quand tu les places dans le bon ordre, parce que chaque carte a un numéro, ça te forme une fresque. Si t'es à la fin de la partie, bah plus t'auras de cartes dans la fresque, plus tu vas marquer de points. Ou bien tu marques en remplissant les cartes objectifs que tu auras choisi de tirer. Et ces objectifs, ils vont te dire, il faut que tu aies un fanion de la France, un fanion de l'Écosse, un fanion de l'Angleterre. Donc tu vas devoir aller chercher les cartes qui correspondent à tes objectifs pour pouvoir aussi marquer des points. Donc voilà. Évidemment, tant que t'as des jetons, tant que t'as pas placé tous tes jetons, tu continues de jouer. Ou alors tu peux choisir de passer. Donc bien sûr, il y a d'autres effets, là je vous fais schématiquement. Nous on a vraiment bien aimé le jeu, on a vraiment accroché. On a joué une petite heure, mais je pense que c'est plutôt 40-45 minutes, tu vois, quand tu connais le jeu.
Bien, ouais.
Voilà, et bon, on était à 4, on jouait avec mon fils qui était particulièrement indécis sur ce qu'à chaque fois qu'il allait prendre comme carte. Donc ça, c'est toujours très agréable, tu vois, quand toi t'attends qu'il joue, c'est un peu pénible. C'est à partir de 10 ans. Bon, je pense que c'est jouable, effectivement. Tu peux jouer avec des enfants dans cet âge-là. Les illustrations sont plutôt chouettes. Enfin, nous, on a vraiment bien aimé le jeu. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir l'essayer quand ça sortira. Et en plus, on a la personne, enfin, qui nous l'a présenté. Du coup, il a fait la partie avec nous. Il était hyper cool. Donc voilà, c'était, enfin, bon jeu quoi. Bon, tout s'est bien goût, enfin, passé, enfin, top quoi. Donc nous, je pense qu'on a envie, tu vois, on a envie de réessayer d'y rejouer pour voir comment ça, pour avoir aussi le ressenti sur d'autres parties, parce qu'on a, on a vraiment bien aimé cette découverte. Et on était tous les trois convaincus autour de la table, donc toute la famille Polgara était a bien aimé. Donc c'est bon, tu vois, autant sur Dark Souls on était assez, c'était un peu le contraire. Là on était quand même vraiment une bonne découverte.
Très bien.
Donc il y a le saut approuvé par Polgara quoi.
Oui, c'est et ça. Je tiens à dire juste que la personne donc Rémi de Rune Edition, il a été interviewé d'ailleurs par l'équipe Proxy Jeux dans des Bretzels et des Jeux. Voilà. Donc je vous renvoie écouter.
Donc les interviews sortiront des Bretzels et des Jeux courant de l'été. Il y en a déjà une qui est sortie sur l'orga du festival, mais toutes les interviews qu'on a faites qui ont été faites brillamment par l'équipe de l'Est sortiront au cours de l'été. Mm. Fendoel, pour finir, tu veux nous parler d'un dernier jeu ou de plusieurs jeux encore ?
Bah, c'est une bonne question. Je vais faire très rapidement quand même un petit point sur Planet, donc à sortir chez Blue Orange. Enfin, alors à sortir chez Blue Orange, c'est encore un prototype qui est en travail. Mais je vais juste expliquer comment le concept. Le concept était intéressant. La réalisation est un petit peu plus discutable, je vais y revenir. Mais il y a tout de suite quelque chose qui est, je dirais, catchy, pour utiliser un mot anglais, donc qui est vraiment attrayant dans le jeu Planet, donc qui est un jeu d'un auteur polonais qui serait prévu pour Essen 2018. C'est que vous avez devant vous, au début du jeu, une espèce de petite sphère avec des... une sphère à facettes, on va dire, voilà, qui a une quinzaine, probablement un autre chiffre que ça, mais probablement 16 facettes, quelque chose comme ça. Mais on va dire une quinzaine ou une vingtaine de facettes différentes, et c'est des facettes qui ont des petits aimants. Et au cours de la partie, on va coller, on va plaquer des petits morceaux de surface d'une planète, justement, parce que le jeu s'appelle Planète, pour, à la fin de la partie, avoir constitué sa planète. Donc ça, c'est pour le côté catchy. Donc ça, c'est super agréable, ça donne vachement envie. Il y avait énormément de monde qui les sollicitait pour l'essayer. Et de ce côté-là, ça marchait bien. Je vais expliquer juste le principe du jeu. Le principe du jeu est relativement simple, c'est-à-dire qu'à chaque tour... Il y aura un premier joueur qui va circuler et on choisira justement donc des phases de planète. Alors il va y avoir une pile de par exemple si on joue à 4, il y aura une pile de 4 et chacun va choisir une face et puis on va continuer et au bout d'un moment on va passer à une autre pile de phases de planète. Il y a une dizaine de piles qui va être le déroulé de la partie. Et on va dire la troisième pile, quelque chose comme ça, la deuxième ou troisième pile qu'on va rencontrer, il y aura également la présence de cartes sur le côté de ces piles. Et ces cartes imposent des conditions. Par exemple, celui qui aura le plus de désert sur la surface de sa planète, celui qui aura le plus de forêt, celui qui aura le plus de glace, etc., etc. Et en fait, tout simplement, vous remportez les cartes si vous avez la majorité de désert, etc., etc. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, hein, les contraintes. C'est par exemple, ça peut être des déserts qui ne touchent pas des forêts. Donc, faut compter le plus grand désert qui ne touche pas une forêt.
D'accord.
Vous allez remporter les cartes. Les cartes vous remporteront des points en fin de partie. Voilà, plus vous avez une carte cachée en début de partie qui est une sorte d'objectif secret que seul vous connaissez. Voilà. Et voilà pour le mécanique. Alors la mécanique, ça a l'air d'être pas mal finalement. Ça ressemble un petit peu vous avez gagné des points par rapport à la surface que vous aurez sur votre planète. Le problème, c'est tout simplement le côté sphérique de la planète pour moi. C'est que tu vois pas du tout. Mais alors déjà pour ta propre planète, arriver à voir les trucs, en gros tu l'inspectes et tu la retournes toutes les 3 secondes parce que t'as absolument pas la moindre idée de combien de désert t'as sur ta planète, parce qu'il faut vraiment inspecter à mort quoi. Et ensuite les planètes des autres, imaginez déjà la mienne, je galérais, bon je suis peut-être pas doué hein, et les planètes des autres, j'ai pas la moindre idée de combien de désert ils avaient si tu veux. En fait, c'est un jeu où tu... Enfin, la bonne idée de la planète qui semble une super bonne idée, pour moi, en tout cas...
Oh, le truc illisible, quoi.
Bah ouais, c'est ça, c'est impossible de savoir ce que les autres ont. En fait, le seul truc que tu peux avoir, c'est que, par exemple, qui a la plus grande forêt ? Moi, j'ai 4, toi, t'as 5, toi, t'as 6, toi, t'as 7. Et ensuite, tour d'après, bah, on a récupéré chacun des tuiles, t'as intérêt à bien regarder et te dire, ok, donc il a pris... une tuile de forêt, potentiellement, il a augmenté la taille de sa forêt. C'est même pas sûr, si tu veux. Et t'as aucun moyen de le vérifier, ou alors, je sais pas, comme je suggérais la bonne blague, de mettre un miroir sur la table. Faut que tu joues sur une table miroir, et dans ce cas-là, tu peux éventuellement voir toutes les phases des planètes de tes adversaires. Mais, enfin voilà, je trouvais finalement une super idée. Mais je sais pas comment est-ce que tu vois, tu peux jouer à ça, quoi, voilà. Bref.
C'est plus un concept, finalement. Ouais, c'est le concept ça. Est c'est chouette, ça. Mais la réalisation, il y a quelque chose à améliorer.
Mais je pense que tu peux en vendre. Mais je pense ouais. complètement que tu peux en vendre, hein, parce que
oui.
les sphères vont être vraiment... Faut imaginer des sphères qui ont vraiment une taille de à peu près 10 cm de haut, quoi, peut-être 10-15 cm de haut. Donc on est sur quelque chose d'assez massif, hein. Donc c'est tout de suite très attrayant. Je mettrai des photos sur le billet, voilà, je suis resté un petit peu frustré là-dessus.
D'accord.
Je passe sur un autre jeu. Alors l'autre jeu, c'est un petit peu de la triche parce que c'est un jeu que je ziotais depuis un petit moment et c'est un jeu solo. Donc en fait, j'y ai pas joué.
Ça marche, hein.
Exactement sur le PEL, mais je l'ai acheté à PEL. Donc voilà, ça c'est mais je suis allé voir le Don't Panic Game. Donc c'est un jeu de Don't Panic Game qui s'appelle Négociateur prise d'otage. Alors c'est une traduction, je crois, assez basse du front du jeu original qui est un jeu américain qui est chez alors c'est un petit éditeur qui en fait qui s'est auto-édité c'est Van Ryder Game, je crois, quelque chose comme ça, juste de mémoire. Donc c'est un jeu dans lequel vous jouez un négociateur lors d'une prise d'otage. Alors
jusque-là, le titre est bon.
Le titre est extrêmement, c'est ce que tu dis, extrêmement bas du front, tu vois, c'est extrêmement simple. Voilà, tu es Gérard, pompier volontaire, donc tu as joué un pompier volontaire. Voilà, c'est Fendoel, négociateur, prise d'otage, tu joues le négociateur en cas de prise d'otage. Donc, j'explique, c'est un jeu dans lequel vous aurez un plateau avec deux petites jauges, en fait, on va dire trois petites jauges. C'est un jeu dans lequel vous aurez des cartes qui vont faire jouer le méchant, d'accord, qui va jouer contre vous, et des cartes qui vont constituer un marché qui va être des possibilités de discussion que vous allez acquérir au cours du jeu. Donc le concept, c'est extrêmement simple. Le jeu, ça se joue en trois phases. T'as une phase qui est une phase où tu vas contacter le preneur d'otage, tu vas te débrouiller pour faire des choses de ton côté en tant que négociateur, c'est-à-dire soit contacter le preneur d'otage pour faire baisser la pression au niveau du preneur d'otage. Le preneur d'otage va être plus ou moins stressé. À partir du moment où il est complètement stressé, il va buter un otage à tous les tours. Donc ça va aller très très vite.
Ah oui.
Voilà, donc ça c'est l'idée. À partir du moment où il est complètement déstressé, tu vas avoir plus de latitude, et je vais expliquer comment. Cette latitude, elle s'exprime avec la présence de dés. S'il est complètement déstressé, tu vas pouvoir jeter 3 dés. S'il est normal, on va dire la plupart du temps, tu jetteras 2 dés. Et quand il est stressé, tu vas jeter un dé. Autant te dire que s'il est stressé, t'es vraiment vraiment dans la merde. Ça m'est arrivé de faire une partie où on se retrouvait vite fait là et c'était grave mort. Donc à ton tour, t'as tout d'abord donc des options de dialogue qui en fait sont des cartes de ta main que tu vas jouer. Tu peux jouer toutes les cartes de ta main si tu veux. Tu peux les jouer de différentes façons. Et l'idée, c'est de faire donc soit baisser la pression, possibilité numéro 1, soit également d'augmenter. Alors on va dire c'est du pouvoir d'achat, d'accord, que tu vas pour te permettre d'acquérir des nouvelles cartes. Et en fait, à chaque fois que tu vas jouer une carte, alors la plupart des cartes, c'est pas vrai pour toutes, mais la plupart des cartes, tu vas les jouer et tu dois également associer ça à un lancer de dés. Comme j'ai dit, tu vas lancer entre 1 et 3 dés. En général, plutôt 2. Sur les dés, tu vas avoir une chance sur 2 de rater, tu vas avoir 2 chances sur 6 de réussir, tu vas avoir une chance sur 6 d'avoir une espèce de truc entre les deux que tu peux éventuellement convertir en une réussite. Voilà. Et donc tu as 3 niveaux sur les cartes, soit c'est un échec total, soit c'est une réussite mitigée, soit c'est une réussite totale. Donc ça va te permettre de juguler un petit peu ta réussite et de finalement pas réussir complètement tous les trucs. Donc ça va être ta phase où tu vas jouer des cartes. Ensuite, à ta phase d'achat, avec les sous que tu as récupérés, on va dire, tu vas pouvoir t'acheter une nouvelle carte, en sachant que les cartes que tu as jouées vont au final reviendront plus tard dans le marché de cartes qui sont disponibles. Donc il y a une mécanique de tu vas jouer des cartes, quand tu joues les cartes, tu les perds définitivement. C'est des options de dialogue que tu perds et elles vont revenir dans le marché global. Et ensuite, il y a une phase très simple qui est la phase de l'avancée du méchant. C'est-à-dire tu vas tirer une carte du méchant et puis le méchant, il va faire une action. Et en fait, alors pourquoi ce jeu est bien ? Alors, point info, je ne suis pas du tout fan des jeux de dés qui sont des jeux frustrants, qui sont des jeux horribles, etc. Et où tu jettes un dé et tu subis et tu es dans la merde. Là, ça va vachement bien quand même, parce que le hasard est peut-être jugulé. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'options de dialogue qui sont, par exemple, ça te permet de relancer des dés, ça te permet d'avoir des trucs qui te permettent de passer à un autre niveau, etc. En fait, dans ton marché de cartes que tu pourras acheter, tu auras des premières cartes, on va dire, basiques, et puis ensuite, tu pourras éventuellement monter, peut-être pour un coup de moule ou ce genre de choses, tu pourras monter à un autre niveau et acheter des cartes plus chères. Par exemple, faire intervenir un sniper qui va essayer de dégommer le preneur d'otage ou ce genre de choses. Ou alors, tu essaies de détourner l'attention du preneur d'otage et tu vas pouvoir faire évacuer des otages, justement. Enfin, voilà. Donc tu as en fait toute une espèce de mécanique et tu peux finalement, contrairement à ce que je pensais au début, en fait, tu vas vraiment construire. Je veux dire, par rapport à ta première partie, ta deuxième partie, pas du tout la même. Même avec le même preneur d'otage, je vais y revenir là-dessus après. Mais en gros, tu vas construire un petit peu ton scénario et pour arriver à tes fins, tu vas monter un petit peu par étape pour essayer de récupérer des cartes qui vont valoir plus cher après. Et donc, ça va être ça l'idée, parce que les cartes qui valent plus cher te donnent plus d'options et sont beaucoup plus puissantes, tout simplement. Et alors, pourquoi j'ai bien aimé également ce jeu ? J'ai également aimé ce jeu parce que finalement, il y a une côté découverte. Alors, le côté découverte, il est très simple. C'est que le preneur d'otage, déjà, c'est pas toujours le même. Tu as 3 preneurs d'otage. Tu en as des plus faciles et des moins faciles. Dans la boîte de base, t'en as que 3. Mais t'as des paquets de cartes, supplémentaires qui existent. Alors, ils ont pas été traduits en français pour le moment, que je sache. Mais sans doute qu'ils le seront bientôt. Et avec ces cartes, les preneurs d'otages ont des exigences. Mais genre, ils en ont pas qu'une, ils en ont plusieurs, et tu en tireras une pour ce scénario-là. Mais elle est face cachée, elle arrive face cachée. En fait, ils ont des exigences, ils ont, plutôt t'en tireras 2 face cachée, pour simplifier. Et donc t'en tireras 2 face cachée, et ces exigences, tu peux, justement en discutant avec le preneur d'otage au téléphone, arriver à les trouver. Et les exigences, si tu réponds à ces exigences, tu peux tirer des gros avantages de ça, mais t'auras des gros inconvénients en retour, par exemple. Il veut des armes, le mec, tu vois. Donc, si tu lui files les armes, c'est cool, il est ultra détente, et là, tu vas pouvoir tirer tes 3D tout le temps, donc ça va être super cool. Par contre, il s'amusera à tirer sur ses, le mec, il est taré, donc en fait, il va tirer sur ses otages à chaque tour. Donc, ça fait que t'as intérêt à faire ça plutôt vers la fin. T'as des petits trucs comme ça. Mais en gros, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est pas les dés, parce que les dés c'est stressant, ça amène le stress, mais j'ai trouvé passionnant c'est que il faut vraiment jouer à ce jeu sans lire les cartes avant. C'est-à-dire que les cartes preneurs d'otages et tout ça, tu les gardes bien cachées. Et ils ont bien compris le truc, c'est-à-dire que les paquets de cartes supplémentaires que t'achètes, c'est dans des paquets scellés et opaques. D'accord? Faut pas du tout que tu lises les trucs. Et en fait, tes preneurs d'otages, bah, tu vas les découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu feras des parties, tu feras plusieurs parties, et ben, bah, parfois, ces revendications, ça sera les mêmes, parfois, ça sera pas les mêmes. Et, t'as un certain aléa, sur les paquets de cartes des preneurs d'otages. C'est-à-dire que t'as un gros paquet de cartes d'actions que pourra faire le preneur d'otages et tu vas en prendre que 10. Qui représenteront en fait les à peu près 10 tours de jeu, puisque la partie est assez courte finalement, tu joues une partie en on va dire un quart d'heure et c'est vite plié. Et donc à chaque fois ça va être différent. Il y a des fois où tu vois, tu vas le mec il va libérer un otage comme ça sans que tu fasses rien et ensuite par contre il va devenir taré ou alors j'ai eu des fois où je sais plus ce qui s'est passé mais en gros t'as des événements si tu veux qui peuvent être négatifs, qui peuvent être positifs, qui peuvent être moite-moite, on va dire. Et qui rendent finalement qui scénarisent le jeu. Donc ça fait comme si tout à coup il y a un truc impromptu. Donc tu peux, même si t'as planifié toute ta truc de façon foufou, en réfléchissant beaucoup, etc., t'as l'aléa des dés et t'as l'aléa des cartes qui font que finalement tu joues tout seul, tu vas te faire ton petit film dans ta tête. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que ça, enfin, en tout cas, avec moi, ça a bien marché, voilà, on va dire. C'est que ça, en gros, je me suis fait mon petit film, quoi. Voilà, j'ai essayé de sauver des otages, et ça, c'était vraiment cool. Donc voilà, je recommande Négociateur. Alors, juste pour info, on dit que c'est un jeu solo, mais en fait, on pourrait très bien y jouer à deux ou à trois, et puis prendre les décisions conjointement sur ce qu'on va jouer avant, ce qu'on va jouer ensemble. Je pense que quand même trois, à mon avis, c'est trop. Deux, ça serait mieux, parce que genre, il y en a un qui jette les dés, et puis l'autre qui tient les cartes ou un truc comme ça, on peut se sentir plus impliqué. Moi, j'y ai joué que tout seul, mais je pense que ça se joue tout à fait à deux. Voilà. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas trop les illustrations. C'est vrai que les illustrations sont assez basiques. Ça fait un petit peu... Enfin, c'est un style un petit peu réaliste, on va dire. Je sais pas, c'est comme genre photoréaliste, quoi, les têtes des personnages. Mais bon, moi, ouais. Ça ne m'a pas choqué, quoi, voilà. Mais bref, j'ai kiffé. Donc, Négociateur prise d'otage, n'hésitez pas. Si vous êtes branché un peu jeu solo, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil ou à voir une vidéo de partie. Mais enfin, même une vidéo de partie, je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça va vous spoiler vraiment ce qui se passe. Moi, je l'ai acheté complètement à l'aveugle et je trouve que c'est pas mal. Il y a, c'est pas un côté legacy, mais vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça où tu vas découvrir le truc. Et en fonction du preneur d'otage, il va avoir des revendications complètement différentes. Et c'est, enfin bon, je vais pas arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, mais juste pour dire, les preneurs d'otages sont pas particulièrement. Enfin, il y a des tarés, mais il y a aussi des personnes qui ont des revendications un peu plus nobles, sans spoiler. Donc c'est assez, c'est assez marrant parce qu'ils ont fait, ils ont essayé de faire un truc assez original. Voilà. Okay. C'était tout ce que j'avais à dire.
Très bien, je crois qu'on a fait le tour sur ce retour de Paris Ludique 2018. Vous n'avez rien à rajouter, c'est...
Allez-y si vous avez l'occasion l'année prochaine et que vous n'y êtes pas allé.
Oui, tout à fait. C'est un chouette festival.
Mm. Oui. Voilà, et puis tout en y allant, en se disant que soit vous allez vraiment à l'aveugle sur les jeux, enfin au gré de ce qui est libre, ou alors s'il y a vraiment des choses qu'il faut faire, faut les attaquer tout de suite, faut y aller dès le samedi matin à l'ouverture parce qu'après ça devient plus compliqué en fait ça se prépare malgré tout. Si on veut vraiment profiter pour jouer et jouer des nouveautés, faut préparer un peu sa venue en amont.
Ouais, comme tous les gros festivals, j'ai envie de dire. Ok, bon merci de nous avoir écoutés. C'était la dernière de Jeux du Mois pour cette saison. On se retrouve à la rentrée de septembre pour une nouvelle saison Jeux du Mois, toujours en compagnie de Cyrus. Merci à vous, Paul Gara et Fendoel, pour avoir participé à ce retour de Paris Ludique. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser vos commentaires sur le site ou sur iTunes, comme d'habitude. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Il y a des choses qui arrivent pendant les vacances. On a parlé des interviews des Bretzel et des jeux, mais il devrait y avoir aussi un ou deux petits épisodes hors série, comme on a l'habitude de vous en proposer en été. Et puis, d'ici à la rentrée,
jouez bien.